Cet épisode vous est présenté avec la magnifique participation de tous les patriotes du Rendez-vous Tech à qui on fait tous la bise un par un.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets.
Bonjour et bienvenue à tous sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle qui vous résume donc l'actualité tech, internet et gadgets. Et comme vous l'avez entendu, je ne suis pas notre Patrick. Ce qui ne veut rien dire, ça fait une double négation, donc on pourrait penser que je suis notre Patrick. Non, je ne suis pas Patrick Béja. Patrick est en vacances, il nous a lâchement abandonnés. Il nous a demandé donc de le remplacer. N'ayez pas peur, habitués du Rendez-vous Tech. On va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. On va essayer de pas casser les meubles. Donc, aujourd'hui, je suis votre hôte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérôme Kenborg. Je suis un des comparses de Patrick depuis pas mal de temps. Je viens parfois chroniquer ici, donc certains me connaissent peut-être. Et sinon, vous me retrouvez le plus souvent dans une autre émission que présente Patrick, Upload, où j'officie la plupart du temps. Mais trêve de présentation, il est temps pour moi de vous présenter mes deux compagnons d'infortune de ce soir. J'ai nommé Jean-Baptiste Daquet et Alexandre Pina. Jean-Baptiste, Alexandre, vous allez bien ?
Ça va.
Pas
ça
trop
va,
stressé.
Merci beaucoup pour l'invitation. Ah bah moi, c'est mon premier rendez-vous tech, donc forcément, c'est.
Bah écoute, Patrick, il est parti en nous laissant les clés pendant les vacances. Donc moi, je vous invite. On va profiter de sa piscine. Hein, on va chercher aussi l'armoire avec les alcools, la vieille poire, et puis on va se passer une bonne petite soirée, quoi.
Pour te dire, la dernière fois que j'ai pris le contrôle d'une émission, qui c'était Will & Co, et depuis, elle s'est arrêtée. Donc on espère pour.
Y a-t-il un Patrick dans l'avion ? Non, vous n'êtes pas sûr d'atterrir.
C'est ça.
Donc, c'est un rendez-vous tech historique. Hein. C'est le premier rendez-vous tech sans Patrick à l'intérieur. Quoi.
Ouais, c'est peut-être le dernier d'ailleurs sans Patrick à l'intérieur. Bon, on va tâcher de rendre l'expérience plutôt agréable. Alexandre Pina, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui. Bah moi, je suis consultant search pour un grand groupe de presse à Paris et également podcasteur chez Polygeek.
D'accord, Polygeek, l'émission politique et tech, c'est ça ?
Exactement, politique, internet, nouvelles technologies, bimensuel.
Très bien. On en reparlera à la fin d'où est-ce qu'on peut te retrouver et tout ça. Donc, ça sera fait. Jean-Baptiste Daquet, qui a été stagiaire à l'époque de No Watch. Donc, ça, c'est des vieux souvenirs déjà. Jean-Baptiste, qui es-tu et que fais-tu en ce moment ?
Eh ben moi, je suis alors dans la vie, je suis designer, mais à côté de ça, je fais une chaîne YouTube qui s'appelle UVYO, qui rebootera en janvier, et je fais pas mal de choses sur l'apprentissage du code pour les enfants, et voilà.
Et
pas
bien
mal de
écoute,
petites choses en fait.
Très bien, et bienvenue à vous donc, messieurs, dans ce rendez-vous tech numéro 191. Aujourd'hui, on va parler de bourse, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas sale. On va parler des winners et des losers de la tech dans les résultats Q2 de la bourse. Alors là, il y en a déjà qui sont en train de se dire « Oh là là, où est-ce qu'il nous emmène ?» Et on continuera puisqu'on parlera d'Uber et des tribulations d'un Chinois en Chine. Et on terminera par l'affaire qui émeut les réseaux sociaux aujourd'hui, Snapchat versus Facebook et Instagram, la bagarre à la récré. Ça sera nos trois gros sujets, et puis après on enchaînera comme d'habitude avec des news et des rumeurs. Nous gardons la structure de l'émission, le rendez-vous tech, ne t'inquiète pas Patrick. Donc messieurs, on va commencer, on va parler de la bourse, des résultats. Alors certains vont se dire, qu'est-ce qui vient nous parler de la bourse et tout ça, c'est une émission tech. Aujourd'hui, les sociétés dont on parle souvent dans le rendez-vous tech, que ça soit Apple, que ça soit Alphabet, ex-Google, Facebook, aujourd'hui, c'est des sociétés qui sont cotées en bourse et on ne peut pas comprendre l'intégralité de l'actu tech si on ne s'intéresse pas un minimum aux mouvements de capitaux et aux mouvements de ces sociétés. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque la plupart des sociétés tech présentaient leurs résultats Q2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le résultat Q2? C'est simplement le résultat du deuxième trimestre. Les sociétés présentent leurs résultats premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre et sont jaugé par la bourse. Et justement, avant de commencer l'émission, je donnais une petite explication qui va vous permettre peut-être un petit peu de comprendre mieux comment fonctionne la bourse, parce que parfois, et je le comprends parce que moi j'ai compris très récemment comment ça fonctionnait, on a du mal à comprendre pourquoi, je sais pas, quand une société tech a un super produit qui se vend bien, son action chute. Et puis d'autres fois, la société va très mal, et on le verra tout à l'heure, ou très mal, ou va un peu mal, genre Apple, et pourtant, leur action grimpe. C'est un truc qu'on peut avoir du mal à comprendre. Donc, l'explication que je vais vous donner, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça va vous permettre de décrypter les articles avec nous. En fait, la bourse, c'est un petit peu comme un conseil de classe à l'époque où vous étiez au lycée. Donc, il y a des élèves et des professeurs. Les élèves ont des notes, donc c'est leur résultat. Et généralement, les professeurs donnent aussi, on va dire, des évaluations de leur performance dans le trimestre suivant. Donc, ils vont dire, ouais, t'as pas eu des notes super ce trimestre-ci, mais bon, t'as du potentiel, tu feras mieux le trimestre prochain. Je pense que t'auras 13 de moyenne le mois prochain. La subtilité, c'est là où ça se différencie de l'image du conseil de classe, c'est que l'élève aussi, lui, va donner une évaluation de ses performances dans le mois d'après. Donc l'élève va dire « Ouais, moi je pense que je vais plutôt avoir 12 de moyenne le mois prochain. » Et en fait, la bourse va jauger, donc les actionnaires qui ne sont pas dans la salle, et surtout les analystes financiers vont jauger de la différence entre l'évaluation qu'a donné les professeurs sur les futurs résultats de l'élève et les résultats réels de l'élève, mais également son pronostic des résultats. C'est un petit peu compliqué, mais vous voyez, c'est pas les sociétés ne sont pas jugées sur leurs résultats à l'instant T, mais sur leurs probabilités et les perspectives de résultats. C'est pour ça qu'une société qui a des moins mauvaises notes que prévues peut avoir les faveurs des professeurs du conseil de classe, alors qu'une autre qui aura de bons résultats, mais qui sont un peu moins bons que ce qu'on attendait, va avoir plutôt des mauvaises notes. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne, sachant que tous les profs qui sont dans ce conseil de classe sont des profs hystériques. Si vous baissez d'un point votre note, ils vont dire « Oh là là, c'est la catastrophe, dans deux mois, tu vas avoir zéro ». C'est pour ça que les réactions boursières sont toujours un peu extrêmes, et puis après, elles ont tendance à se tasser et à revenir à la normale. Je sais pas, messieurs, si mon explication de la bourse vous a plu. Est-ce que ça vous permet, toi, notamment Jean-Baptiste, tu me disais, j'y comprends rien aux histoires de bourse. Est-ce que je t'ai éclairé un petit peu?
Non, mais tout à fait. Alors, ton explication, elle est tout à fait claire. J'ai deux questions par rapport à ça, histoire de faire le béotien. La première, elle est un peu troll, hein. C'est qui évalue les évaluateurs dans ces cas-là?
C'est des spécialistes. Alors, en fait, c'est des grandes banques d'affaires et des experts financiers qui analysent à la fois à travers les résultats des sociétés et également les perspectives macro et microéconomiques des marchés, en fait.
D'accord. Deuxième petite question, du coup, c'est par rapport plus au Q2, est-ce que, donc au quarter 2, c'est ça? Est-ce qu'il est plus important qu'un autre sur tout le long de l'année? Par rapport au calendrier fiscal, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que c'est du coup plus important?
En fait, ça dépend de tes résultats en Q1. En fait, tout dépend de ton évolution entre le Q1 et le Q2 de l'année dernière. On va voir ton évaluation de trimestre en trimestre, mais également ton évaluation sur l'année précédente. Ouais. Donc voilà un peu pour décrypter. Tout est clair, on peut commencer. On va parler des bons et des mauvais élèves. Vous êtes prêts? Alphabet. Donc Alphabet ex Google, là plutôt des très bonnes notes, hein, ils performent bien en bourse comme on dit dans le vocabulaire. Les revenus. Donc les revenus, c'est le chiffre d'affaires, hein, c'est pas les profits. Là aussi, c'est pas la même chose. C'est pas l'argent qu'ils gagnent, c'est l'argent qu'ils font. On est d'accord. Les revenus augmentent de 21%. Les revenus, donc le chiffre d'affaires, est de 21,5 milliards de dollars. Je sais, c'est des chiffres qui dépassent un peu l'entendement. En gros, Alphabet, leur système publicitaire marche à plein en ce moment. Beaucoup d'engouement, notamment avec les vidéos. Il faut se rappeler qu'Alphabet, ils ont quand même YouTube à travers Google et qu'il y a un véritable engouement des publicitaires pour tout ce qui est pub vidéo. ils perdent quand même beaucoup d'argent sur les fameux moonshots, les projets de Google, que ça soit la voiture autonome, que ça soit les ballons qui balancent dans la stratosphère. Pour les moonshots, donc les sociétés en devenir, il y a une perte quand même de 859 millions de dollars, ce qui n'est pas rien, mais c'est largement compensé cette fois-ci par les profits, donc l'argent qu'ils font vraiment, 7 milliards de profits venant de la publicité. C'est pas mal quand même, hein, 7 milliards de dollars de profits sur un trimestre. Ouais.
Et du coup, c'est absolument pas YouTube Red qui, à un moment, vient jouer quelque chose là-dedans. En fait.
Non, non, et même les résultats de YouTube Red, d'après les rumeurs, sont plutôt un peu décevants.
C'est pas le genre d'informations qui sont révélées, justement, dans les Q2
Non, parce qu'une société peut aussi quand même décider d'où elle compte ses trucs. Et généralement, t'as une colonne qui s'appelle « Autres ». Oui, Apple, il met par exemple ses Apple Watch, c'est dans autres. Ouais. Et à mon avis, Alphabet, donc Google, il met YouTube Red, quoi.
Ouais, bah oui. D'accord. Mais c'est très intéressant en fait, là, ces résultats, et en fait, ils étaient un petit peu attendus. Pour moi, c'est une très bonne. Il y a une très bonne logique dans la restructuration en fait de Google sous la forme Alphabet, l'idée de siloiser et de restructurer toute la société par métier, par compétence. Il faut bien comprendre que de toute façon le nerf de la guerre aujourd'hui, ce qui finance le reste des sociétés chez Google, c'est effectivement les revenus de la publicité, et qu'ensuite toutes les autres sociétés, elles visent juste à diversifier l'activité de Google et à éviter à Google d'avoir tous ses œufs dans le même panier.
Et oui. Pour revenir, oui. Et faire de la collecte aussi de metadata qui leur permettent de la publicité.
Mais bien sûr. Et pour préciser un petit peu sur la publicité, notamment, et pour revenir un peu sur les moteurs de recherche, parce que c'est un petit peu mon métier. En fait, il y a deux choses. Nous, on a senti, hein, de notre côté, l'accélération des derniers travaux de Google sur la publicité, et notamment sur la publicité mobile. Depuis le début de l'année, Google s'est concentré sur deux choses. C'est donner plus de segmentation des utilisateurs pour les annonceurs, c'est-à-dire qu'on cible encore mieux aujourd'hui les utilisateurs. Et d'un autre côté, Google a fait en sorte d'unifier l'expérience entre le mobile et le desktop avec des choses notamment comme la disparition de la colonne de droite et des publicités en colonne de droite sur Google. Vous n'y avez peut-être pas fait attention, mais ces choses-là, ça vise à unifier l'expérience et à avoir en fait un moteur de recherche qui se ressemble de plus en plus sur la partie desktop et sur la partie mobile.
Ouais, non, mais c'est vrai que la restructuration est bonne. Ils ont bien fait de séparer pas mal d'activités parce que ça inquiétait les actionnaires. Moi, quand même, pour mettre les choses en perspective et pour vous faire réagir là-dessus, je pense que dans l'histoire de l'humanité, qui est courte, hein, on est d'accord, il n'y a jamais eu une entreprise aussi puissante. En chiffre d'affaires, c'est vrai que ça se taquine un petit peu parfois avec Apple et tout ça, mais la puissance aujourd'hui de Google et l'influence de Google, ça peut être effrayant parce qu'on se dit qui arrêtera Google, qui peut arrêter, est-ce que Google va s'arrêter? Bon, après, l'histoire nous a montré que tout empire à un moment s'effondre, mais aujourd'hui, on se demande ce que serait un monde sans Google. On pourrait même en rêver parce qu'ils sont tellement omniprésents dans la vie. C'est quasiment impossible d'échapper à Google aujourd'hui.
Ils sont omniprésents et en plus ils sont en perspective d'avenir et je pense, enfin ça a l'air d'être très bien vu.
Ils se placent sur des marchés, sur des produits qu'on n'achètera pas avant 30 ans quoi. C'est assez hallucinant. Je suis curieux de voir comment tout ça va évoluer. Curieux et un peu anxieux. Mais je préfère rester curieux qu'anxieux.
C'est le moment dans les films où il y a 10 ans plus tard, et là, monde qui crie dans les rues.
Mais justement, leur sortie, le fait qu'ils soient sortis progressivement Boston Dynamics, ça m'a enlevé un peu mes angoisses de Skynet. Et donc, du coup, je me dis que...
Ouais, mais tu vois, moi, c'est presque ce qui me fait le plus peur chez Google aujourd'hui, c'est que il y a tellement personne pour réguler Google et leur dire ça c'est bien ou pas bien, ils sont obligés de s'autodiscipliner. Et paradoxalement, ça me fait encore plus peur que tout, parce qu'en gros, ils disent merde, là on n'est pas en train de leur plaire. Ok, on élimine cette société, comme ça on va pouvoir faire passer toutes les autres, ça va passer comme dans du beurre. Ça me fait un peu peur, mais bon.
Mais c'est vrai ce que tu dis, puisque de toute façon, à la base, le fait d'avoir restructuré Google, qui est désormais Alphabet, c'était aussi pour anticiper anticiper ce problème qu'ils auraient eu au bout d'un moment d'un point de vue marché avec des problèmes de concurrence.
Je vais même te dire, c'est complètement visionnaire parce que la marque Google, c'est aujourd'hui elle qui est forte. Et si tu lis l'histoire des sociétés dans le monde, il n'y a pas une seule marque forte qui peut résister à l'érosion du temps. Il y a des marques qu'on croyait qui ne disparaîtraient jamais et qui disparaissent. Et quelque part, ça permet de lancer éventuellement d'autres marques que Google qui seront peut-être extrêmement fortes plus tard.
Bien sûr.
Tout ça dans une grosse holding Alphabet, quoi. Donc c'est très intéressant. Allez, on va avancer un peu plus vite sur les autres parce que sinon je crois qu'on va faire le rendez-vous tech le plus long du monde si on fait toutes les sociétés.
Le rendez-vous boursier.
Le rendez-vous boursier, tout à fait.
C'est ça.
Facebook, la grande forme aussi. Les revenus augmentent, donc le chiffre d'affaires augmente de 59% par rapport à l'année dernière. 6,44 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On s'aperçoit qu'ils jouent pas tout à fait dans la même cour que Google, qu'Alphabet. Mais bon, c'est quand même des milliards et des milliards de dollars en chiffre d'affaires sur un trimestre. La plateforme publicitaire fonctionne plein tube aujourd'hui sur Facebook, avec notamment une grosse réussite sur le mobile. Aujourd'hui, ça draine plus de la moitié de leurs revenus, la publicité sur mobile. Les publicités en vidéo aussi, hein, petite parenthèse, merci l'autoplay sur Facebook.
Ouais. C'est clair.
Et également, pour l'instant, encore un petit peu épiphénomène, mais intéressant comme tendance, les publicités sur Instagram qui fonctionnent du feu de Dieu et plaisent beaucoup aux annonceurs parce que elles sont un peu contraignantes pour les annonceurs parce qu'ils ont l'obligation de faire une belle image, machin, etc. Mais du coup, elles sont assez flatteuses et je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que les pubs dans Instagram sont pas trop mal incorporées. Elles sont là, mais elles dérangent pas trop et elles sont visibles et plutôt flatteuses. Vous le voyez, vous le vivez comment les publicités sur Facebook?
Facebook ou Instagram pour le coup? Parce que pour le coup,
Instagram, c'est la même chose.
Alors moi je les trouve justement plus subtils sur Instagram, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure vis-à-vis de ce qui est en train d'arriver avec Snapchat et du revirement d'Instagram, qui a aujourd'hui un business model qui a l'air assez carré quand même.
Ouais.
Maintenant sur Facebook, moi j'ai toujours des pubs de femmes qui veulent me rencontrer.
Bah écoute, il y a un moment où faut que t'acceptes. Hein.
Après il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne considère pas comme de la pub alors que ça en est, c'est la suggestion d'articles en fait. Hein. Pour beaucoup de personnes, c'est une suggestion qui est uniquement liée au moteur. Il y a une partie des articles suggérés qui sont aussi des articles remontés par l'algo, et derrière c'est payé par les différentes régies.
Et moi alors j'ai trouvé, il y a un chiffre, et c'est dommage qu'on l'ait pas pour toutes les sociétés qu'on va évoquer. Il y a un chiffre qu'il y avait dans l'article, c'est qu'un utilisateur moyen de Facebook génère en moyenne 15,83 dollars par an, soit 1,3 dollars par mois. Je trouve cette donnée hyper intéressante et on devrait la rendre obligatoire pour tous les réseaux sociaux parce que quelque part, ça nous donne le montant du contrat qu'on passe avec Facebook quand on utilise leur service. On les paye pas directement, mais on génère chez eux un niveau de revenu avec nos métadonnées, finalement avec notre présence sur Facebook. Et je sais pas ce que vous en pensez de mon idée, elle est peut-être très révolutionnaire, mais on devrait imposer à tous les réseaux sociaux de nous donner le chiffre d'affaires que chaque individu, en moyenne, génère en utilisant leur service. Je trouve que ça rendrait le contrat beaucoup plus clair, plutôt que cet espace de contrat flou où on se dit « Ah, c'est gratuit ». Mais non, ça a jamais été gratuit. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ça serait la meilleure façon de pour Facebook de se prendre des procès avec des gens qui leur réclament de l'argent.
Oui, c'est vrai. Non, mais bon, ils nous la passent qu'à nous, que pour le rendez-vous tech.
Non, mais la donnée, enfin moi, c'est une donnée, par exemple, que j'aimerais bien avoir à titre individuel, par simple curiosité, savoir combien mes clics sur Facebook ont rapporté à la régie de Facebook. Effectivement, c'est une donnée que j'aimerais bien avoir.
Je t'avouerais, moi aussi, mais en même temps, ce chiffre, quand on le regarde avec un petit peu de distance, moi je me dis mais je ne génère que $1 par mois, enfin c'est
avec 2 milliards d'utilisateurs, c'est pas mal quoi.
Justement, bien sûr, mais quand tu le prends de manière individuelle, Tout d'un coup, je me mets à relativiser vis-à-vis de... Enfin, j'avais vraiment l'impression de contribuer à des milliards de milliards de milliards. Et effectivement, cumulé par rapport au nombre d'utilisateurs, bah oui, effectivement, ça contribue à la richesse de Facebook. Mais si aujourd'hui, Facebook me met à me dire que tous les mois, en fait, je ne génère qu'un euro...
Là où Facebook pourrait te poser la question différemment, est-ce que tu es prêt à donner 1,3$
oui,
par mois
voilà,
pour avoir un
voilà.
Facebook sans pub?
Et ben moi c'est plus la question à poser à Twitter en fait, mais carrément.
Ouais, bah voilà, non mais c'est là où la donnée pourrait être intéressante. Bon après je pense que Facebook n'aurait aucun intérêt à faire payer ses utilisateurs parce que le potentiel que tu représentes est beaucoup plus intéressant que de leur donner 1,3$ par mois. Mais quand même, je trouve c'est en ça que la donnée est très intéressante. Et c'est dommage qu'on l'ait pas pour d'autres réseaux en fait.
Puis regarde, toi, Jérôme, sur Tipeee, les donateurs, ils donnent au moins 2 voire 4 euros pour être premium sur Tipeee. Donc c'est
ouais, mais nous, on est vachement mieux que
Facebook. Ça donne
l'avenir.
Ah bah oui.
Les services rendus sont tellement plus importants.
Tellement.
Rapidement, Amazon, je voulais en parler aussi. Parce qu'Amazon, vous le savez peut-être pas, vous qui écoutez le Rendez-vous Tech, mais Amazon était un peu le vilain petit canard de la bourse. Les analystes boursiers détestaient Amazon. Et pourquoi ils détestaient Amazon? C'est parce que Amazon, tout l'argent qu'ils faisaient en profit, eh ben Amazon, ce méchant, il le réinvestissait. Au lieu de le donner aux actionnaires, il le réinvestissait pour devenir de plus en plus gros. Et ça déplaisait donc aux analystes boursiers qui disaient « Mais qu'est-ce que c'est que cette société qui ne redonne pas l'argent à ses actionnaires et qui dépense son argent en investissement ? C'est scandaleux. » Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une très très bonne stratégie de la part d'Amazon. Amazon qui... Contrairement, parce que d'un point de vue consommateur, on se dit Amazon c'est tellement énorme, ça doit être une société qui gagne énormément d'argent. Non, Amazon a toujours eu un business model extrêmement fragile qui repose sur le volume, c'est-à-dire qu'ils ont investi pour devenir de plus en plus gros parce que l'éventuel retombée en profit d'Amazon ne sera que sur des très très grands nombres. Amazon fait très très peu, voire pas de marge sur les produits qu'ils nous vendent. Puisque je vais pas rentrer dans les détails, mais ils font plus d'argent avec le cash flow entre payer le producteur du produit et enfin en gros ils font de la trésorerie. Ceux qui connaissent un petit peu l'entreprise, ça fonctionne comme ça. Et alors là où il y a un retour en grâce à la bourse pour Amazon, et si vous regardez l'action Amazon, elle grimpe bien, elle a bien grimpé cette année parce que ça y est, ils génèrent du profit qui reste dans les caisses, qui est pas dépensé par Jeff Bezos, bon, qui envoie quand même des fusées dans l'espace, mais ça c'est rien, on va dire que c'est une occupation du dimanche. Mais là où les résultats d'Amazon sont encore plus prometteurs, c'est au niveau de leur web service, très très utilisé, plébiscité par toute l'industrie tech. Beaucoup beaucoup de services sont hébergés chez Amazon, donc leur web service, leur cloud, et les revenus du cloud chez Amazon ont augmenté de 58%, donc sur l'année, donc ce qui est pas mal du tout. Une petite pensée pour Amazon, messieurs.
Quand tu parles de cloud, c'est bien leur service d'hébergement de
voilà, AWS, voilà,
ouais, c'est ça.
Okay. AWS d'Amazon, ça cartonne en ce moment. Apple. Là, par contre, on va commencer à passer, on va dire, aux mauvais élèves. Mais le paradoxe avec Apple, c'est que Apple commence à avoir des problèmes, mais son action grimpe. Donc, reportez-vous à ce que je vous ai expliqué sur le conseil de classe. Vous allez tout comprendre. Apple, les chiffres de vente de l'iPhone, qui aujourd'hui sont la source de revenus essentiels d'Apple, c'est tellement monstrueux qu'à côté, tous les autres produits Apple sont presque des épiphénomènes, que ce soit les ordinateurs, les iPads, je parle même pas des Apple Watch. L'iPhone est la source de revenus, et c'est tout le danger pour Apple, la source de revenus principale d'Apple. C'est pas que les ventes d'iPhone sont en baisse, c'est la croissance des ventes d'iPhone qui baisse légèrement. En gros, ils subissent le fait que le marché des smartphones a tendance à se tasser un petit peu. L'intérêt des consommateurs pour les smartphones se tasse un peu et surtout les gens changent de smartphone un peu moins souvent qu'avant. Ça, c'est, on va dire, l'analyse macroéconomique. Mais pourquoi Apple, du coup, gagnent des points en bourse en ayant des mauvais résultats, c'est parce que ils ont dépassé quand même l'évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation boursière prévoyait une vente de 40,02 millions d'iPhone et Apple a vendu 40,4 millions d'iPhone. Donc ils ont dépassé ce qu'on avait prévu d'eux. Donc ça, ça plaît aux analystes boursiers. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, la bourse. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Malgré que leurs revenus sont en baisse de 14,6%, l'action Apple, en ce moment, grimpe.
Oui, et puis, comme tu le dis, enfin, c'est des, enfin, la baisse de revenus pour Apple, enfin, c'est un mauvais résultat pour une boîte comme Apple.
Exactement.
Donc, c'est pas à comparer au reste du marché, c'est juste qu'on prend une tendance qui est déjà très bonne. Mais sauf que chez Apple, on exige que cette tendance reste très bonne, et si elle est un peu en dessous, c'est moins bon, alors qu'en fait, pour d'autres acteurs de la tech, ça serait juste parfait. Et pour compléter un petit peu ce que tu disais aussi, il faut dire aussi que Apple s'est quand même lancé tous les SE, justement, notamment, sur une gamme un peu plus low cost qui génère un petit peu moins
Exactement.
De marge brute.
Mmh.
Et puis, d'un autre côté, on a aussi une augmentation je l'ai lu récemment, du budget R&D, je crois qu'il y a une augmentation de 25%.
Oui, donc ça, ça pèse sur la trésorerie.
Exactement,
résultats.
Mais les investisseurs sont bien conscients que c'est aussi la R&D qui a fait d'une boîte comme Apple ce qu'elle est aujourd'hui, et qu'augmenter la R&D, c'est juste vital pour revenir en avance sur le marché du smartphone.
Il y a des bons signes aussi, hein. Leurs services, le cloud, Apple Music sont des chiffres d'affaires en augmentation. Donc c'est des sources de, on va dire, de revenus pour Apple qui sont en croissance. Donc ça, c'est intéressant. Néanmoins, il y a quand même deux signaux très inquiétants pour Apple cette année. C'est effectivement, Apple a du mal en Chine et en Inde à vendre des smartphones et même à vendre des produits tout court. Ils ont et notamment, il y a eu récemment la domination Android sur le marché indien est absolument énorme par rapport à Apple. Donc là, ils ont du mal. Et toujours le même problème récurrent chez Apple, ils ont du mal à trouver ou à sortir un produit qui peut éventuellement venir faire béquille à l'érosion des ventes d'iPhone. L'Apple Watch n'est pas du tout au rendez-vous. Bon, je pense que c'est normal aussi parce que le marché est pas complètement mûr autour de la smartwatch. L'iPad se porte pas hyper bien.
Comme
on vend pas
des boîtes.
En fait. Le problème c'est que les gens changent pas de tablette.
C'est ça.
Moi j'ai des amis qui utilisent encore leur iPad 1 quoi.
Moi,
ils en sont très contents.
Ouais. Moi c'est mon iPad 2 qui me sert d'interface pour la domotique et voilà.
Donc c'est le taux de renouvellement des tablettes qui est en berne quoi. Donc ils ont du mal à trouver un produit aussi sexy que l'iPhone.
Oui. Mais en même temps, est-ce qu'Apple est censé trouver un relais de croissance à une chose aussi importante que le smartphone? Faut se rendre compte de la révolution technologique que ça a été. Maintenant, les smartphones sont dans tous les foyers. On a le renouvellement qui génère encore des revenus, mais on a quand même un taux d'équipement, enfin en tout cas pour on a quand même un taux d'équipement des foyers qui est assez important. Trouver le nouveau produit qui viendra s'installer aussi profondément dans les foyers avec je sais pas en moyenne 2 ou 3 produits par foyer. Enfin, je vois pas où va se situer le relais de croissance.
Tu raisonnes comme un fan de tech et avec raison. Mais comme je t'ai expliqué, à la bourse, les profs sont des hystériques. Et quand t'as eu 20 sur 20 pendant plusieurs années, ils vont pas te demander de maintenir ton 20 sur 20. Ils vont te demander d'avoir 24 sur 20, 25 sur 20. Le problème, et c'est tout le problème finalement du marché boursier, c'est qu'il faut être toujours meilleur que meilleur. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, les meilleures sociétés se prennent les pieds dans le tapis de la bourse. C'est comment être meilleur que meilleur? Comment arriver au même succès que l'iPhone? C'est une pression énorme quoi pour les sociétés. C'est ça toute la difficulté en fait.
Tout à fait d'accord.
Mais après, est-ce que vous voyez avec les futures annonces d'iPhone 7, etc., et de tout ce qui fuite sur au niveau du smartphone, vous voyez vraiment un taux de renouvellement possiblement supérieur avec ces nouveaux produits? Moi non plus en fait. J'ai plutôt l'impression que tout ce qui s'annonce, c'est comme assez souvent, du réchauffé.
On entretient le parc en fait. On est maintient le parc.
Oui, et puis nous, en tant que consommateurs, on est moins excités par les choses, quoi. En tout cas, par les smartphones. C'est plus le produit qui retient toute notre attention.
Aujourd'hui, on parle quasiment que des bagnoles en fait. Enfin, quasiment que.
Ouais. Le truc, c'est que les bagnoles chez Apple, ça va pas arriver du jour au lendemain.
C'est clair.
Et moi, je suis même pas persuadé qu'ils vont sortir des bagnoles qui vont vendre au public. Je vois plutôt Apple lancer un système de transport, en fait.
Oui, dans les services.
Ouais, plutôt un truc dans les, un mélange de hardware de software. Mais
ça serait un gros changement. Ça serait un gros changement.
Ah, bah,
ça
oui.
veut dire que ça veut dire qu'Apple deviendrait dans le domaine de la voiture ce qu'IBM était dans l'informatique. En gros, du service entreprise, quoi, ou du service public. Enfin, c'est pas du tout, enfin, c'est pas le paradigme actuel d'Apple, en plus de travailler avec autre chose que.
Mais si l'évolution des sociétés nous apprend une chose aussi, c'est que pour résister à la mort du mammouth, hein, comme des Panam ou des trucs comme ça, les seules sociétés qui arrivent, elles opèrent de profondes mutations.
Bien sûr.
Il faut muer pour, il faut changer pour survivre. Il faut s'adapter pour survivre. Et oui, le business d'Apple a toujours été la tech et les gadgets quelque part. Ben c'est peut-être pas son avenir. À voir. On fait des prévisions de haut vol, hein, ce soir. Hein.
Ouais. Avec une super question ouverte à la fin, c'était.
Tout à fait. Allez, on redescend un peu sur terre parce qu'on va parler de Twitter. Twitter, ça sent un peu le roussi.
Ah, ça
va pas. Ouais. C'est terrible, hein, parce que Twitter, on a de, enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai de l'affectif pour Twitter.
Ah, complètement.
C'est mon réseau social préféré. J'ai pas envie qu'on lui fasse du mal à Twitter. Et ces méchants de la bourse, je les maudis à chaque fois qu'ils font baisser l'action Twitter pour, bon, elle est pas au plus bas. Soyons optimistes. Elle a déjà été plus bas que ça. Elle a été à $13, là, ils sont à $18, mais c'est franchement pas très haut, hein. Ils vont mal. Là aussi, hein, rappelez-vous, paradoxe de la bourse, les revenus de Twitter sont en hausse de 20%. Donc on va se dire, ah ben, il a des bonnes notes. Oui, mais ils ont fait des prévisions. Twitter prévoit des résultats en berne pour le troisième trimestre. Donc en gros, ils ont eu des bonnes notes sur ce trimestre-là, mais ils ont prévu qu'ils allaient avoir des mauvaises notes le prochain. Donc ça plaît pas du tout aux profs, donc aux analystes financiers, puisque Twitter prévoit 590 millions de dollars de chiffre d'affaires au lieu de 678 millions de chiffre d'affaires, ce que les analystes voulaient qu'ils fassent, quoi. Donc, c'est quand même une grosse différence, hein, entre les deux, hein. Là, on parle plus de milliards de dollars, hein. Vous remarquez, on est dans les millions avec Twitter.
Bah oui.
On a changé déjà de catégorie. Aujourd'hui, de toute façon, le plus gros souci de Twitter, c'est la stagnation de ses utilisateurs. Donc on voit là Twitter qui essaye de faire de la télé. Ils ont retransmis du sport en direct. En gros, ils essayent de faire venir des budgets publicitaires un peu de toutes les façons possibles. Et ça, c'est quand même pas un bon signe. Quand tu sors finalement de ton cœur de business pour... qu'est-ce que Twitter va diffuser des matchs de foot en direct ? Alors je sais qu'ils font du direct avec Periscope, mais est-ce que c'est pas un peu maladroit ?
Moi, je suis d'accord... Et pas d'accord. Je suis d'accord avec toi parce que quand on voit Twitter qui se diversifie, ça fait penser à Yahoo qui à un moment donné s'est mis à se diversifier parce qu'ils n'arrivaient plus à trouver ce qu'ils devaient faire sur leur modèle principal. Et ensuite, un peu moins d'accord dans le sens où, tout simplement, on a donc sur ces vidéos live. Alors peut-être que l'exemple des matchs sur Twitter, c'est pas forcément le meilleur, effectivement. Mais la vidéo live avec la publicité qui va venir s'intégrer par-dessus, c'est quand même le gros relais de croissance. Et quand on voit la montée en puissance de Facebook sur leur Facebook Live, moi, j'en vois de plus en plus sur mon mur. Et la vitesse, sachant que sur Twitter, c'est apparu beaucoup moins vite. Et puis avec plusieurs boîtes aussi, hein, qui utilisent Twitter et pas seulement de la vidéo Twitter. On a Periscope, voilà. Mmh. Je pense que paradoxalement, alors que Twitter était mieux placé au départ sur la vidéo live, j'ai peur qu'en fait, au final, ça soit pas les grands gagnants à la fin, quoi.
Non. Ouais.
Et d'ailleurs, est-ce que le fait que Vine ne va pas bien, ça influe aussi sur les résultats de Twitter et sur les...
Non, parce que c'était pas... Et, de toute façon, c'est un des problèmes de Twitter. Vine était très bien, mais c'était absolument pas une source de revenus. Et du coup, les gros Vineurs n'ont pas gagné d'argent sur Vine, donc maintenant ils migrent tous sur des plateformes qui leur rapportent de l'argent. En fait, Twitter a beaucoup de retard dans l'implantation de ses business models. Et le problème, c'est qu'à la limite, ça, la bourse peut s'en satisfaire si tu engranges de l'utilisateur, comme Snapchat par exemple. Snapchat aujourd'hui ne dégage pas vraiment d'argent, mais de plus en plus d'utilisateurs utilisent Snapchat, donc ça plaît à la bourse. Le problème, c'est que quelque part Twitter cumule deux tares en ce moment, c'est qu'ils ne gagnent pas d'argent, ils ne gagnent pas d'utilisateurs. Et ça, du coup, c'est pas bon. C'est pas bon et ils ont des mauvaises notes du coup. Hein. Ils sont jugés. Alors ça veut pas dire que Twitter va disparaître du jour au lendemain, mais c'est quand même l'année de tous les dangers. Hein. 2016-2017, Twitter, ça passe ou ça casse. Hein. Et pour l'instant, il y a pas de très très bon signe. Hein. En tout cas, au niveau, on va dire, d'une ère de la guerre qui est l'argent, il y a pas de très très bon signe pour Twitter. Après,
tu achètes pas quoi.
Moi, disons qu'il faut avoir des coronets pour acheter du Twitter aujourd'hui. Ouais. Ça peut payer parce que tu sais, il y a des sociétés qu'on donnait comme foutues et qui se sont redressées. Regarde Apple. Dell avait quand même dit ils devraient rembourser leurs actions à tous leurs actionnaires et disparaître Apple. Bah ceux qui avaient acheté des actions Apple à cette époque-là aujourd'hui ils sont dans leur piscine à siroter
bah oui,
margarita
mais,
quoi.
Mais toutes ces boîtes-là, il y a quelqu'un avec une énorme vision derrière. Quand ces boîtes qui ont un revers à ce moment-là comme Apple, derrière t'as quelqu'un qui avait une vraie vision.
Moi j'y crois, Jacques Dorsey, mais j'ai l'impression que le paquebot est lourd à tourner quoi. C'est ouais. Je crois que ce mec a vraiment une vision. Le problème c'est que ça bouge trop lentement. Je veux dire, Twitter, les innovations vont pas assez vite. Aujourd'hui, toutes les semaines, il y a des innovations sur les autres réseaux sociaux. Regarde à quelle vitesse Facebook a rattrapé
mais
la
oui,
vidéo live.
Mais c'est ça, bien sûr. Non, mais bien c'est sûr. Ça qui est dingue. C'est bien que tu le dises parce que tu es en train de parler de Twitter comme d'un paquebot. Mais ça devrait pas être un
oui,
paquebot
c'est
Twitter.
Une
Twitter, ça devrait être un optimiste avec une maniabilité hallucinante par rapport à des mastodontes comme Facebook. Enfin, il faut se rendre compte, il y a quand même une grosse différence en termes de codebase et de choses à développer sur Facebook et sur Twitter. On devrait avoir un réseau social qui est encore capable de sortir des trucs assez rapidement et de tester assez rapidement. Et
Ils nous ont sorti des stickers.
Non, mais c'est ça en fait. À chaque fois, ils essayent. Ils sont complètement à côté de la plaque dans ce qu'ils sortent.
Ouais, puis on rattrape. À chaque fois, on rattrape, quoi. Mmh. En fait, on est juste en train de rattraper Inino qui est sorti à côté. Oh mon Dieu, Periscope est sorti. Putain, il faut qu'on sorte notre version intégrée. Enfin, c'est fou, quoi.
Ouais, c'est bon. On verra. Hein. Je crois qu'aucun de nous trois ne souhaite la disparition de Twitter. Non, et j'ai du mal à imaginer Internet sans Twitter aujourd'hui. On sait que c'est important, mais il suffit pas d'être important. Il faut être rentable. Hélas, on vit dans un monde. Peut-être hélas. Hein, ça, après, c'est l'opinion de chacun, mais on vit dans un monde capitaliste. Et il suffit pas d'être utile. Il faut être rentable. C'est terrible.
Et tu vois pas Twitter, combien même, enfin, mourrait ou je ne sais quoi, avoir un espèce de clone qui sortirait peut-être plus jeune, à la manière de Snapchat qui est venu.
Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas de business model autour du côté 140 caractères, microblogging, s'il n'y a pas de business model, personne ne va investir. Donc aujourd'hui, une société qui ferait du Twitter sans s'appeler Twitter, il n'y a pas un mec qui va miser un copec dessus si Twitter meurt, quoi. Ça voudrait dire que le proof of concept du business model ne marche pas. Donc peut-être après il y a un autre business model à trouver, un Twitter payant. Est-ce qu'aujourd'hui on serait prêt à payer pour un Twitter payant pour avoir des nouvelles fraîches et en 140 caractères? Moi oui, mais en même temps je me dis que ça n'aurait pas l'importance d'un Twitter parce que ça serait réservé à une élite quoi. Donc on pourrait faire toute une émission là-dessus et on est bien parti pour faire toute une émission sur le premier sujet. On va accélérer un petit peu. On va parler effectivement de Uber et les tribulations d'un Chinois en Chine. Uber, pour résumer un petit peu les choses, vous aviez Uber China et un grand compétiteur, Didi. Alors comment on dit en chinois, Didi Chunqing, il y a un X, donc vous devriez.
Je suis absolument pas expert là-dessus.
Bon, on va l'appeler.
Tu l'avais bien prononcé sur ton émission.
Bah,
le
vu
matin,
qu'on dit donc... Xiaomi, vu bah, qu'on dit Xiaomi, je me dis qu'on dit Chunqing. Ça doit être ça. Bon, on va dire Didi. Hein,
Appelons-le
ça sera plus
Didi.
Ouais, voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la semaine dernière, Uber a décidé de vendre les activités de Uber Chine à Didi. En fait, pour être tout à fait exact, mais on va pas rentrer dans tout le montage financier parce que même moi j'y comprends rien, ça ressemble plutôt à une espèce de fusion. Donc les deux vont se faire de la thune. Sauf que c'est Didi qui va diriger un petit peu les affaires au quotidien en Chine. Mais on peut quand même considérer qu'Uber a perdu, on va dire, une manche en Chine. Ils avaient englouti et investi énormément d'argent. Et c'est justement un petit peu le fond du problème, c'est que c'était devenu une course à l'armement entre Didi et Uber China, qui gonflaient leurs muscles un petit peu comme des grenouilles voulant se faire passer pour des bœufs, qui gonflaient de plus en plus leur capital pour dire « je vais t'écraser, je vais t'écraser ». Et bon, on peut dire quand même qu'Uber a dû s'incliner. Un facteur qui, a priori, serait déclencheur de cette décision, c'est ce que je vous disais en début d'émission, ça serait l'investissement que Apple a fait $1 milliard dans Didi. Certaines sources bien informées disent que, en fait, Apple et Uber sont en train de fricoter, sont en train de faire des trucs, on sait pas quoi, peut-être qu'ils sont en train de bosser sur un truc de transport, et que quelque part, Apple a voulu envoyer un signal à Uber en investissant dans son compétiteur $1 milliard, en lui disant « arrête tes conneries, tu vas perdre ta chemise, tu vas perdre ton slip si tu continues dans cette course à l'armement en Chine ». C'est putassier hein, comme manœuvre de la part même d'Apple. De, en gros, c'est un peu comme si un copain était en train de faire une connerie, un copain à vous. Donc, vous encouragez la connerie pour que votre copain comprenne que c'est une connerie. Quoi. C'est un peu tordu. Moi, je trouve que ça se tient. Je sais pas, toi, Alexandre, tu avais une vision aussi, une autre vision de cette affaire Uber en Chine.
Bah, Uber en Chine, ce qui arrive à Uber en Chine, c'est un éternel recommencement. C'est pas la première boîte qui vit ces choses-là en Chine. Google est parti de Chine, Facebook, Twitter, Snapchat, c'est toujours interdit. Amazon, par exemple, et eBay, ils y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a Alibaba. Hein donc, c'est hyper difficile de pénétrer le marché chinois à moins d'être en joint venture. C'est un peu ce qui est en train de se passer entre Uber et Didi, puisqu'en fait, au final, Uber va prendre des parts dans Didi, je crois. Ouais. Et puis, pour une analyse plus en termes de métier...
Une joint venture, pour faire simple, c'est une fusion. En fait, ils s'échangent des parts.
Oui. C'est ça.
Voilà.
Et puis, pour rentrer un petit peu en termes de cœur de métier, dans le métier d'Uber et de Didi, il se passe une chose en Chine pour Uber qui s'était également passé en Corée du Sud. En Corée du Sud, en fait, Uber n'a pas réussi à pénétrer le marché pour une raison qui est assez similaire. C'est-à-dire qu'en fait, en Corée du Sud, il y avait déjà Kakao. Donc, vous connaissez la petite extension Kakao Talk. Ben, il faut savoir qu'ils font aussi Kakao Taxi. Et Kakao Taxi existait déjà depuis plusieurs années et mettait déjà en relation les particuliers avec les taxis. Et donc, du coup, Uber n'a pas pu s'implanter. Il faut savoir qu'en fait, en Chine, Didi propose exactement la même chose, alors que Uber ne peut pas le faire. Du coup, il y a forcément, à un moment donné, un problème de compétitivité.
Et ce qui pose ça, c'est les problématiques politiques, parce que l'État chinois dirige l'économie là-bas, ou alors c'est même plus complexe que ça, c'est même des problématiques culturelles. Qu'est-ce qui explique justement
effectivement, le gouvernement chinois qui, en tout cas, dans les textes, reste un gouvernement communiste, a une manière très chinoise de pratiquer l'économie de marché. C'est-à-dire, pour résumer, j'ai lu ça dans un article, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est presque du libéralisme sans la liberté en Chine. Il y a un peu cette vision-là du marché, et c'est vrai que y a une manière de faire des affaires en Chine qui est très très spécifique. Ouais. Et le gouvernement te tient toujours un petit peu par les couilles, puisque ils ont le droit de vie ou de mort sur n'importe quelle société. Ils peuvent faire passer à n'importe quel moment une loi qui te bousille complètement ton business model, quoi.
Ils ne veulent pas, en fait, ils ne veulent pas d'un leader étranger sur un de leurs segments de marché. Et ça n'arrivera jamais. L'idée, voilà, c'est le leader sur le marché, en l'occurrence des transports, ben là, ça sera Didi et ça sera pas Uber. Le marché de la vente en ligne, c'est Alibaba et ça sera jamais Amazon. Et voilà, c'est le gouvernement fait en sorte que les leaders sur le marché restent des sociétés chinoises. Voilà.
Ils ont quand même gardé du communisme ce qu'on appelle la planification. C'est le gouvernement quand même qui décide. Alors, il y a une forme de libéralisme, mais c'est des paradoxes très chinois. Il y a une forme de libéralisme, mais en même temps mélangé à de la planification d'État. C'est étrange.
C'est d'ailleurs intéressant dans les boîtes qui ont investi dans Didi. T'as Alibaba, t'as une compagnie d'assurance aussi de mémoire. C'est aussi c'est pas mal d'entreprises des fleurons nationaux quoi. Pour...
Oui, bien sûr. Les mecs du parti ont peut-être appelé des potes et ils ont dit tiens tu vas mettre un milliard là hein parce que on va niquer Uber quoi. Oui mais de temps en temps quand on voit quand même ce qui se passe peut-être bien que sûr. Notre vision est caricaturale mais c'est bizarre quand même.
Nous on a Montebourg qui arrive en plein.
Oui mais justement Montebourg il a quasiment aucune enfin si remarque oui il a eu de l'influence sur des achats et des non achats. C'est vrai qu'en France nous aussi hein il y a une forme d'interventionnisme de l'État dans les affaires. Mais peut-être quand même pas autant qu'en Chine, quoi.
On n'est pas aussi dirigiste.
Non, on essaye, mais certains essayent. Mais non, on n'en est pas là. Et encore heureux, à mon avis. Mais bon. Voilà, en tout cas, pour Uber, eh bien, sachez que si vous allez en Chine, il faudra prendre un Didi. Mais la marque Uber, je crois, va rester en Chine. Ils sont pas encore sûrs, mais il y aura a priori les deux, ils vont se partager le marché, en fait. En termes de marque, hein. Mais tout ça sera dirigé par Didi. On en arrive à notre troisième gros sujet. Là aussi, hein, dans de conflictuel et dans, on va dire aussi les affres du libéralisme, le viol, le rapt, la baston de cour de récré, pour être gentil, entre Snapchat et Facebook a pris une nouvelle envergure cette semaine, puisque Snapchat se retrouve en même pas une semaine pris en tenaille entre Facebook et Instagram, qui est le pote et qui appartient aussi à Facebook. Donc c'est un peu deux contre un. Pourquoi pris en tenaille ? Parce que en début de semaine, début de semaine dernière, Instagram a lancé Stories qui est, on peut le dire, hein, le pompage intégral des fonctions Stories de Snapchat. Il y a quasiment pas de différence, si ce n'est quelques fonctions qui sont sur Snapchat qu'on ne trouve pas sur les Stories pour l'instant d'Instagram. Donc là, déjà, on va dire premier pain dans la gueule. Deuxième pain dans la gueule, on apprend aujourd'hui, enfin ce week-end, que Snapchat tranquillement est en train, que Facebook est tranquillement en train d'expérimenter au Canada et au Brésil. On va dire des petits pays pas importants en ce moment, hein, Rio, c'est un épiphénomène avec les Jeux Olympiques, est en train d'essayer une nouvelle fonction qui, quand vous ouvrirez votre app Facebook, ne va pas vous amener sur le flux d'infos avec une fenêtre où vous donnez de l'actualité, mais sur votre appareil photo, en vous incitant à vous prendre en photo ou à faire une vidéo et la partager sur votre flux Facebook avec... Petite cerise sur le gâteau, le système Masquerade, la start-up qu'ils ont acheté il n'y a pas très longtemps, et qui permet, ça va peut-être vous rappeler quelque chose, de mettre des masques de lapin en 3D sur votre visage. Enfin, tout ce genre de petites animations qu'on a déjà vues quelque part.
Tu dis Masquerade, moi je suis le seul blaireau qui dit MKS.
Alors, Marion, ce matin, moi j'ai dit MS, j'y suis pas arrivé. Elle m'a dit, moi, tu dois être le seul au monde à pas dire Masquerade.
Eh ben non, on est deux, enchantés.
Bon, on est deux.
Il y a plein de boîtes qui fonctionnent comme ça, on se fait avoir une fois et ensuite on prononce correctement.
Voilà. qu'est-ce que vous en pensez déjà est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse que là on est à la limite du tabassage dans la cour de récré quoi.
C'est moi j'ai limite une petite question pour Alexandre si tu t'y connais un petit peu plus en software. Est-ce qu'il n'y a pas des brevets niveau software parce que quand tu regardes ce genre de choses tu enfin
très honnêtement sur cette cette partie-là j'ai pas les infos.
D'accord.
Après ce qui est clair c'est que s'ils sont lancés sur le stories, sur la fonctionnalité stories avec Instagram, derrière ils sont forcément blindés, c'est évident quoi.
Blindés ou ils ont fait le calcul qu'ils gagneront plus d'argent que ce qu'ils peuvent perdre avec un procès.
Exactement. Voilà. C'est ce que j'entendais dans blindé, c'est qu'au final, oui.
Là où les choses quand même. Pour résumer un petit peu la situation pour les gens qui nous écoutent. En fait, Snapchat et Facebook, Pourquoi ils se détestent cordialement? D'abord parce que Facebook a essayé plusieurs fois de racheter, surtout une grosse fois, de racheter Snapchat pour 3 milliards de dollars et Snapchat le fait non, pas assez, on veut pas. Ça a pas plu à Mark Zuckerberg qui a pas l'habitude qu'on lui dise non, je pense. Et deuxièmement, Facebook s'est déjà planté deux fois en essayant de faire des Snapchat like avec POC et avec Slingshot. Et les deux ont été des ratages totales. Mais pourquoi Facebook s'acharne à vouloir faire du Snapchat ou à avoir Snapchat? C'est pas uniquement parce qu'ils veulent avoir le truc à la mode chez les jeunes. C'est parce que Snapchat et Facebook veulent la même chose. Ils veulent la manne publicitaire de la télé. C'est-à-dire que la télé, pour l'instant, capitalise énormément d'argent d'investissement publicitaire, encore aujourd'hui aux États-Unis. L'érosion se fait lentement, mais le déport vers le web est quasi inévitable, puisque les nouveaux publics regardent plus de vidéos sur le web qu'à la télé. Et vraiment, le cœur de cette bataille, c'est cette manne publicitaire qui doit tomber. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que Snapchat est un enfant de Los Angeles, donc d'Hollywood, des grands médias, alors que Facebook est un enfant de la Silicon Valley, donc plus du web. Et quelque part, les deux s'affrontent autour de ça. Mais maintenant, c'est un petit peu... Alors, on les compare souvent tous les deux, Snapchat et Facebook, mais c'est David et Goliath. Snapchat, aujourd'hui, c'est une puce par rapport à Facebook. Oui. Facebook, c'est le bulldozer devant la puce, quoi. Donc, est-ce que Snapchat doit avoir peur? Oui, je pense que oui.
Bah oui, ouais, clairement. Mais après, alors moi, étant un gros utilisateur de Snapchat, et pas du tout pour les mêmes raisons qu'Instagram, enfin j'utilise quasiment pas Instagram au-delà de des éléments conventionnels. Enfin, c'est plus pour faire mon... Je suis les entreprises sur Instagram, je les suis pas sur Snapchat, par exemple. Du coup, ça fait une légère différence. Moi, aujourd'hui, je me vois pas passer, par exemple, alors je suis pas la parole des jeunes, hein, mais je me vois pas passer de Snapchat à Instagram, quand bien même l'interface est exactement la même, alors mais copier-coller. D'ailleurs, j'en ai même d'ailleurs découvert qu'on pouvait envoyer des messages sur Instagram, chose que je ne savais pas. Ouais. des messages qui dataient de 2015, si tu veux, mais. Moi, je me vois pas faire une transition aussi simple, quand bien même je serais Snapchat actuellement, j'irais pas très bien.
Ouais, mais justement, là, c'est la force et la faiblesse de Snapchat. Snapchat plaît énormément aux jeunes, 18-24, on va dire. Le truc, c'est parce que l'interface est un peu cryptique de Snapchat. Il faut connaître un peu pour savoir faire des trucs et tout ça. Mais pour les publicitaires, n'oublions pas, je parlais de la manne publicitaire. Donc, le nerf de la guerre, l'argent, c'est pas les utilisateurs. C'est l'argent que peuvent rapporter les utilisateurs. Or, c'est pas pour médire sur les jeunes de 18-24, mais généralement, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Alors que l'utilisateur d'Instagram qui a vieilli, qui avait 24 ans quand Instagram est sorti, mais qui a plus de followers sur Instagram et donc qui va utiliser ses nouvelles fonctions Snapchat-like sur Instagram, les revenus publicitaires et le modèle publicitaire d'Instagram est déjà en place, alors que Snapchat le cherche toujours.
Et puis, si Facebook s'est lancé avec Instagram sur le projet Stories, le clone de Snapchat, c'est que ils savent qu'en fait le réservoir, ce qui fera, celui qui va gagner de toute façon, c'est celui qui aura la plus grosse part d'utilisateurs de toute façon. Et effectivement, installer Stories sur la communauté Instagram plutôt que sur Facebook, c'est assez malin, pouvoir potentiellement récupérer toute la communauté Instagram et la déplacer sur Stories et en faire une communauté largement aussi importante que celle de Snapchat. Et donc, du coup, faire pencher la balance progressivement sur Stories. C'est le nerf de la guerre, et se situe ici, c'est l'usage et c'est le nombre de personnes autour de chaque utilisateur qui utilise une solution ou l'autre. Si demain, tous tes potes sont passés sur Stories, même si t'aimes pas trop le look Instagram, tu finiras par passer sur Stories aussi.
Oui.
Vous pensez sérieusement qu'on peut facilement, parce que Snapchat et Stories, c'est quand même des modes d'expression un peu, comment dire, je vais pas dire trash, mais c'est des contenus faits rapidement, souvent centrés sur la vie perso, beaucoup plus perso que, en tout cas moins, entre guillemets, moins mise en scène. Vous pensez sérieusement que des utilisateurs d'Instagram peuvent nativement se mettre aujourd'hui à utiliser Stories?
Ça dépend de ton âge. Moi, par exemple, oui, parce que Snapchat, j'aimais bien. Mais Snapchat, j'ai dû refaire une base de followers alors que j'en avais beaucoup sur Instagram. Et puis il y a un côté, comme tu dis, un peu nawak, ouais. qui, voilà, hélas, je n'ai plus 20 ans, donc je recevais des Snapchats de mecs bourrés en soirée. Bon,
ouais.
Bon, ça m'intéresse. Après, je suis pas non plus intéressé par certains trucs de gens de ma génération, mais globalement, voilà, je pense qu'il sera peut-être pour les plus jeunes, ils resteront sur Snapchat. Mais c'est pas ce que veut Snapchat. Snapchat aimerait bien attirer aussi des gens plus vieux. Et c'était leur projet en sortant Memories. Et là, quelque part, Instagram leur coupe l'herbe sous le pied. En gardant les vieux.
Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est les entreprises que ça va intéresser pour Instagram. Mais... Parce que c'est un flux qui est plus direct, qui demande moins d'efforts, qui se périme aussi. Et c'est peut-être beaucoup plus... Enfin, moi, je ferais Instagram, c'est peut-être pour ça que je le ferais, en fait.
Ouais, mais... Quelque part, même si Snapchat grossit son nombre d'utilisateurs, ce qui va probablement faire, s'ils n'ont pas les revenus publicitaires, si les entreprises les suivent pas, ils sont morts.
Comme Twitter. Hein.
C'est exactement ce qu'on disait, c'est pas l'usage qui génère forcément la valeur. C'est pas parce que beaucoup de monde utilise ton produit, si t'as pas réussi à générer du cash autour des utilisateurs, c'est très violent hein, ce que je dis. Je suis désolé pour tous les gens qui croyaient que c'est le plus important, c'était d'être utile. Bah non, il faut être rentable. Et Snapchat, pour l'instant, ne gagne pas d'argent. Ils sont prometteurs, mais
toute la problématique de Snapchat et du clone story, c'est qu'en fait. Les utilisateurs sont très jeunes, donc il n'y a pas de gros porte-monnaie en face de ces utilisateurs, pardon, je chavonne un petit peu. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette communauté qu'on capte à un certain âge, ensuite on la conserve. Ces gens-là vieillissent et ces gens-là, ensuite, on va pouvoir leur vendre des choses, des produits, des fonctionnalités, de la pub éventuellement. Et l'idée, c'est d'aller chercher cette communauté maintenant, quand on peut encore la voir, pour pas la perdre ensuite dans les années qui viendront.
Non, mais je suis pas en train de dire que Snapchat a perdu, hein. Je dis juste qu'il s'est pris deux grognons là. La manière dont Snapchat va réagir par rapport à cette agression. Moi, je parle quand même d'agression parce que c'est très agressif ce qu'a fait Facebook. Hein. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est un côté move fast and break things. Hein. C'est un peu sans foi ni loi. Hein. C'est un côté Far West. Hein. Tiens, je te tire deux bastos et tu dégages de ta ferme et je te la prends quoi. Et la manière dont va réagir Snapchat dans les mois à venir, pas forcément en faisant un procès, mais comment ils vont réagir en innovation, va, à mon avis, déterminer l'avenir de Snapchat ou sa mort.
De toute façon, tu peux pas faire un procès, enfin, c'est tellement un message négatif lancé aux investisseurs. Enfin, c'est un message de limite de peur, quoi.
Bah oui.
Tu voilà. Moi, je suis quand même hyper surpris de voir comment Facebook a réussi à faire quelque chose d'Instagram, quand même. C'était pas donné. Enfin, c'est pas que c'était pas donné, mais ils ont quand même réussi à lui donner un business model qui aujourd'hui a l'air de fonctionner. Et quand tu te souviens un petit peu de l'époque où ça fricotait un peu avec Twitter, enfin, Instagram, Twitter, etc. Je suis pas sûr que Twitter aurait réussi à faire.
Non.
Ce qu'a fait Facebook, en fait.
Instagram aurait peut-être sauvé Twitter, pour être franc.
Ah, tu penses?
Bah, c'était une affiliation naturelle.
Ouais.
Et la perte pour Twitter de ne plus pouvoir afficher nativement les images d'Instagram, ça a été terrible pour Twitter, je pense. Ça a été terrible. Parce que de l'information visuelle, c'est l'avenir. C'est clairement... Enfin, là-dessus, c'est vrai que Facebook a été assez visionnaire sur son avenir. Mais d'une manière générale, même si je dis du mal de Facebook qui ont été très brutales avec Snapchat, on peut quand même admirer le retournement de Facebook qui, même au niveau de Facebook lui-même, a réussi à faire une machine de guerre commerciale, qu'à une époque, on se demandait comment Facebook allait faire de l'argent quand même.
Exactement. Moi, je me souviens très bien de cette époque. Je me souviens très bien de cette conférence où ils nous avaient présenté Timeline. Où il faut se rappeler de ce qu'était Facebook avant Timeline, le flux qu'on a aujourd'hui chacun sur notre mur. Et moi j'étais complètement circonspect. Je m'étais dit je pense qu'ils vont dans le mur. Bah je m'étais complètement planté. Et les mecs avaient eu la vision de nous proposer ce qu'on a aujourd'hui, à savoir Timeline. C'est Timeline, on se rend pas compte à quel point c'est révolutionnaire dans la façon d'agréger et de présenter les contenus. Et c'est Timeline qui leur a permis Ensuite, plus simplement de revenir pousser de la pub, de mieux maîtriser l'intégration publicitaire. Enfin, voilà. Et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est toujours dans la même logique. Et il y a des personnes chez Facebook qui ont une capacité à rebondir, à innover rapidement, qui est assez hallucinante.
Bah, effectivement. On va peut-être, à moins que Jean-Baptiste, c'est passionnant ces débats, mais ça pourrait durer toute la nuit.
C'est clair.
Jean-Baptiste, une chose à ajouter sur l'ensemble de ces sujets. On a beaucoup parlé de pognon, hein. Désolé pour ceux que ça froisse, mais c'est important quand même pour comprendre le monde tech dans lequel on évolue, de comprendre toutes ces choses. Jean-Baptiste, une conclusion au sujet?
Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Quand même, sur Snapchat, on dit que ça touche beaucoup les jeunes. Donc, tu disais les 18-24. Moi, je pense que c'est même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune. C'est-à-dire que je vois déjà dans mon entourage, donc j'ai 24 ans, je suis désolé, que bah, la plupart de mes entourages, eux, ne comprennent pas Snapchat. Juste passent complètement à côté. Pas seulement par l'interface, mais même le principe de se mettre en scène ou de filmer des éléments du quotidien. Et c'est, moi, je dirais même carrément en fait les 14-18 en fait.
Ouais.
Pour Snapchat. Après, si tu veux, t'avais une application photo, si on veut revenir un petit peu sur la photo, qui était plutôt intéressante. Enfin, c'était pas une application photo, mais si tu regardais par exemple l'implication qu'avait la photo dans l'application Miitomo, qui était l'application de Nintendo, dans lequel tu avais un petit personnage, un petit avatar qui se mettait en scène, en tout cas dans lequel tu mettais en scène. Moi, je sais clairement que j'ai de sérieux problèmes à me mettre en scène sur Snapchat. Jamais je me filme en face cam pour raconter ma vie. Enfin, c'est inenvisageable. Par contre, avec Miitomo, je me permettais une approche différente dans laquelle j'avais un autre personnage, etc. Exactement. Et dans une société où l'image est extrêmement, enfin, c'est le pied de la guerre aujourd'hui, que ce soit sur l'information, que ce soit sur même les réseaux sociaux, etc. C'est une place tellement importante, peut-être que c'est pas inenvisageable que Snapchat arrive à trouver peut-être une autre manière de se représenter ou de se mettre en scène qui pourrait refaire passer la bascule d'un autre côté.
En tout cas, ils ont été
visionnaires. Pour des utilisateurs plus âgés, peut-être.
Ouais, ils ont été visionnaires en Snapchat. Et d'ailleurs, même le patron d'Instagram l'a reconnu. Tout le crédit va à Snapchat. Mais il aurait pu ajouter tout le pognon via Instagram.
Ouais,
mais
exactement.
Voilà. Les pionniers font rarement de bons colons, comme on dit. Ou, pour donner un proverbe pour conclure ces trois gros sujets... quand t'es pris en tenaille à la bourse, ça peut faire mal. C'est un peu la conclusion du sujet. On va attaquer les news et rumeurs. News et rumeurs. Alors, vous connaissez le principe, hein, érigé par Patrick Legrand sur les news et rumeurs. Vous intervenez quand vous avez quelque chose à dire sur chaque news et rumeur. On va parler bien évidemment du Galaxy Note 7 qui a été dévoilé donc la semaine dernière. Oui, je crois que c'est ça. Mmh. En gros, pour la faire très schématique, c'est le Galaxy S7. Avec un scanner d'iris, un stylet et un peu de hanche en plus, si je ne me trompe pas. Est-ce que j'ai un peu résumé le smartphone d'une manière vulgaire ? Et est-ce que c'est un smartphone qui vous intéresse ?
C'est surtout un téléphone très beau, en fait.
Ouais.
Enfin, au-delà de ça, moi, c'est peut-être le premier téléphone Samsung qui me donne, quand bien même il ressemble énormément au S7. Moi, très sincèrement, dans mes usages au quotidien, dans le train, etc., moi, ça m'intéresse en fait.
Ouais,
beaucoup plus qu'autre chose. Ouais, ouais.
Clairement. Et toi, Alexandre ?
Alors après, c'est trop cher. Enfin, c'est trop cher. Enfin, clairement, c'est des téléphones. Enfin, ceux-là, c'est ceux que t'achètes au bout d'un an quand ils baissent de prix, quoi. Tu vois.
C'est pas trop cher pour un acheteur d'iPhone.
Pardon ?
C'est pas trop cher pour un acheteur d'iPhone.
Et pour un possesseur
d'Apple
Watch,
quoi.
Aussi, ouais. C'est un peu ça.
Moi, je suis pas utilisateur de notes et le stylet, c'est pas quelque chose. J'ai pas l'usage du stylet aujourd'hui.
Ouais. T'as quoi comme sans indiscrétion, hein, t'as quoi comme téléphone, Alexandre, actuellement ?
Je suis sur un Nexus 6.
D'accord. Et t'en es content ?
J'en suis très content.
Tu penses changer l'année prochaine ou...
Bah, je resterai de toute façon. Moi, j'aime être sur du pur Android en termes de software. Donc, du coup, je resterai sur la gamme Nexus.
D'accord,
je pense
t'attends
pour
les
le
prochains
moment.
Nexus.
Exactement.
Et toi, Jean-Baptiste, ton smartphone ?
Moi, je suis sur un iPhone 5S qui roule toujours. Mais alors, depuis que j'ai installé la bêta d'iOS 10,
mais elle déconne même chez moi. Hein. La bêta 3 publique, ouais. Elle est naze.
Tout à l'heure au boulot, elle m'a lancé la playlist tout seul. C'était
oui,
sympa,
non,
je l'ai
mais...
remercié, mais
alors, il paraît que la bêta 4 est beaucoup plus stable, mais la bêta 3 est assez
D'accord.
catastrophique.
Ouais.
J'ai les mêmes problèmes.
Ouais, bon, après, j'ai des petits ralentissements aussi, mais voilà, au-delà de ça, ça fait le taf.
Et
quoi.
Tu penses changer de smartphone cette année ou l'année prochaine
J'hésitais, mais en vérité, depuis que j'ai... Alors moi, si je change de smartphone, c'est pour travailler dans le train avec, tout bêtement, parce que je travaille dans le métro et le RER de manière quotidienne. Et en fait, depuis que j'ai fait l'acquisition d'une Surface, en fait, j'ai laissé complètement le téléphone dans ma poche.
Ah
enfin,
ouais.
même plus dans ma poche, en fait, dans mon sac à dos, puisque maintenant j'ai comme ayant une Apple Watch à côté, bah je fais vraiment l'usage d'un petit écran pour de la petite consommation, des éléments qui pop, et pour travailler à un ordinateur directement.
D'accord.
Et une bonne tablette 12 pouces quoi.
Bon, bah effectivement, les habitudes changent. Google va, en tout cas, la personne qui s'occupait des voitures, j'allais dire autopropulsées, non, c'est pas ça, autonomes, de chez Google.
Ah,
qui
c'est plus autonome. Comment on dit en France déjà?
Ah oui, mais non, je sais, c'est un nom, on va dire autonome, hein, Jean-Baptiste. Donc,
ouais,
Chris Urmson, qui depuis 7 ans et demi s'occupait de la division voitures autonomes, quitte Google et les voitures autonomes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il se fait débaucher par Apple? Est-ce qu'il y a des espions russes qui l'ont enlevé? A priori, l'explication serait en fait techniquement assez plus simple. C'est que, il semblerait que la division Google qui fait des voitures autonomes sorte justement de son état, on va dire, embryonnaire et recherche et développement et devienne une vraie société commerciale à partir de l'année prochaine. Or, on va dire que Chris Urmson, je dirais son nom correctement, a plutôt, on va dire, un profil scientifique chercheur, et que là, on a peut-être plus besoin de businessman pour commencer à signer des contrats autour des brevets, je pense déjà de Google autonome et peut-être de véhicules. Hein, on verra. On sait qu'ils ont signé il y a pas très longtemps avec un constructeur de voitures dont le nom m'échappe. C'est qui? Je sais plus, mais ils sont en train de signer, voilà, avec des constructeurs automobiles. Donc, ça serait l'explication logique du départ de cette personne.
Bah, de toute façon, ils veulent des hommes de produits, hein. C'est ce qu'ils n'ont pas eu sur les Google Glass et c'est ce qu'ils ont intérêt à avoir à ce moment-là, quoi.
Le partenariat, je crois qu'il s'agit de Chrysler, le partenariat qui est envisagé avec. C'est Chrysler qui s'est rapproché de Google pour un potentiel partenariat.
Une marque européenne, mais je me suis. Fiat Chrysler, voilà.
Oui, alors
il y avait Fiat
voilà.
dedans, mais c'est
ça.
Fiat Chrysler. T'as raison. J'y connais rien en constructeur automobile, je savais même pas que Fiat et Chrysler
étaient
fusionnés.
Moi
je
non plus.
Je l'apprends ce soir.
Voilà.
Apple, reparlons un petit peu d'Apple. Apple va vous donner de l'argent si vous trouvez des bugs. Donc ça, on est content. Non, Apple, et c'est quand même un truc important dans l'histoire d'Apple. Ils annoncent un bug bounty. Alors pour résumer très rapidement ce que c'est qu'un bug bounty, c'est en gros offrir en pâture vos programmes à des hackers gentils qui vont vous trouver les bugs et s'ils les trouvent, vous les récompensez avec de l'argent sonnant et trébuchant. J'ai à peu près résumé, Jean-Baptiste, ce que c'était que le bug bounty, toi qui étais
ah, c'est
à la
tout à fait
hack
ça,
avec
oui.
moi. Voilà. Eh bien, Apple
ça, oui,
lance un bug bounty avec des récompenses de 200 000 dollars. Donc c'est pas mal hein, quand même d'aller squasher des bugs chez Apple. Ce que tu disais, toi, Jean-Baptiste, tout à l'heure, c'est une grosse mutation culturelle, ça, pour Apple.
Eh ben, c'est une mutation culturelle et c'est surtout, en fait, un rattrapage vis-à-vis, d'une part, des concurrents, des pratiques qui se font, par exemple, chez Google, etc. Mais je pense que pour eux, ce qui est vraiment intéressant, c'est par rapport au couac qu'il y a eu cette année au niveau sécuritaire sur iOS. T'as eu les affaires avec la CIA, etc., etc. Je pense que iOS 10, c'était peut-être le moment, justement, d'ouvrir. Mais, enfin, jamais t'aurais vu ça chez... Il y a de ça quelques années chez Apple, quoi.
Ah ben, bah, Steve Jobs n'aurait jamais ouvert un bug bounty, je pense.
Mais c'est un aveu, en fait, c'est un aveu à, comment dire, encore une fois, n'importe quelle société le fait, ça pose pas de problème, mais Apple qui fait un bug bounty, c'est une très bonne chose, hein. Nous, entre nous, on peut se le dire,
ouais,
c'est
clairement.
Une bonne chose, mais Apple qui le fait, en termes d'image, ça veut juste dire, vous savez, nos téléphones qui ne bug jamais, En tout cas, c'est ce qu'on se dit dans la communauté. Vous savez, nos téléphones qui bug jamais, ben en fait, on va quand même faire un bug bounty parce qu'en fait, on ne sait pas. Enfin, voilà.
On a placé des faux bugs. À vous de les retrouver.
Oui, c'est ça. Oui.
Non, mais quelque part, il y a une forme d'humilité, peut-être,
oui,
de la part d'Apple, qui est, on peut le dire, complètement incongrue. Moi, j'ai un souvenir, je le racontais toujours, j'ai l'impression d'être un vieux con qui raconte toujours la même histoire, mais il y a, je sais pas, 15 ans, j'avais appelé Apple en leur disant « Mon Mac est planté. » Et le mec au téléphone, très sérieusement, m'avait dit « Un Mac, ça ne plante pas, monsieur. J'ai dit, si, j'ai un écran noir avec c'est écrit en chinois dessus, avec des trucs. » Il dit « Ah non, non, ça, c'est pas un plantage. C'est un kernel panique. C'est pas pareil. » C'était la prétention d'Apple. Les Apple ne plantaient pas, ils faisaient juste des kernels panique, quoi. C'était un peu l'attitude d'Apple à l'époque, quoi. Et admettre aujourd'hui... alors. Je pense que ce qui a commencé à changer la vision d'Apple de lui-même, c'est le fiasco d'Apple Maps. Ils se sont aperçus qu'ils pouvaient vraiment se viander grave sur un produit, quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé à partir de là, quand même. Et que Tim Cook, petit à petit, est en train de dire, bon, les gars, va peut-être falloir quand même qu'on revoie nos trucs de contrôle avant de sortir des produits, quoi.
Ah bah... la division software, je crois, avait pris un... enfin, de mémoire, après la sortie de Maps, il y avait quand même un petit courant d'air avec des personnes qui passaient. Puis,
ah bah, non, ça, c'était pas... j'ai oublié son nom, mais...
Ouais, je me souviens plus trop de son nom.
Un historique d'Apple avait sauté à cause de cette histoire, hein, quand même. Hein. Ouais. Donc, et c'est vrai, comme tu disais, les deux dernières mises à jour d'iOS ont été assez calamiteuses, quoi. Il y avait des bugs, ils ont rattrapé ça au dernier moment. Il y avait des,
alors,
des,
moi, je dirais
des
pas
iPads qui
mais
bloquaient,
j'ai...
quoi, mais... bah, calamiteuse pour Apple, comme disait Alexandre tout à l'heure, n'importe quelle société on aurait accepté des bugs, mais Apple, au prix où ils vendent leurs produits, c'est inadmissible, quoi. C'est comme si t'as une, tu vas dans un grand restaurant et que t'as une mouche dans ta soupe, tu l'accepterais dans la cantine, mais pas au grand restaurant. Donc c'est toujours la vision du premier de la classe, hein. C'est le problème d'Apple, hein.
C'est ce que tu retrouves aussi chez Tesla. Aussi, par exemple, tu reprends dans l'automobile, au niveau du software, tu n'acceptes pas de Tesla, au-delà du fait que la bagnole se conduit tout seul.
Alors qu'un,
même un peu.
Ouais, les Renault autonomes, on va accepter qu'elles mettent quelques personnes dans le ravin, mais pas Tesla, quoi.
Ou qu'elles freinent pas au péage, par exemple.
Exactement. On parle pas de Renault autonomes. On trouvera ça rigolo, même.
Bon, on est de mauvaise foi, là, quand même.
Non, c'est pas gentil, en plus. Pas gentil. Eh bien, gentil, c'est Salesforce. Salesforce qui a racheté Quip pour 750 millions de dollars. Alors, qu'est-ce que Salesforce? Qu'est-ce que Quip? Alexandre, tu expliquais tout à l'heure à Jean-Baptiste, et c'était parfait, ce qu'était déjà Salesforce. Parce que peu de gens connaissent, en fait.
Oui, alors Salesforce, en fait, c'est normal que le grand public connaisse peu Salesforce, puisqu'en fait, Salesforce, c'est une société qui travaille essentiellement avec d'autres sociétés, puisqu'en fait, ils vendent un CRM de gestion de la relation client. Donc, en fait, leurs clients, ce sont des sociétés, des grosses sociétés notamment. Voilà, et Salesforce, c'est un petit peu, sur son segment marché, le Microsoft, quoi, avec une présence très forte et très intégrée dans beaucoup de grosses sociétés.
Voilà. Et Quip, qu'est-ce que c'est? C'est une suite un peu comme Office. Donc, traitement de texte, je pense qu'il y a quelques fonctions tableur, etc. Donc, en gros, pour faire de la bureautique, avec une particularité, c'est que Quip a été développé pour fonctionner sur les mobiles avant tout. Maintenant, il y a des versions pour les desktops, pour les ordinateurs. Mais à l'origine, c'était vraiment un Office conçu pour le mobile. Donc, avec des interfaces pensées pour le mobile, le touch, etc. Ce qui en fait un produit assez intéressant. Moi, je l'ai testé rapidement, Quip, et c'est vrai qu'il... moi qui ai tendance à pas aimer Word parce que c'est une usine à gaz, j'aime bien ce côté un peu light qui, on va dire, se situerait à mi-chemin entre du Evernote ou du OneNote et un traitement de texte, que je trouvais intéressant. Donc...
Ce qui est intéressant aussi sur cette news, c'est que ça intervient juste après l'échec du rachat de LinkedIn, en fait.
Oui,
par rapport à Microsoft.
Et là, c'est des questions de présence à l'esprit. Ce que Microsoft montre très bien et nous montre très bien aujourd'hui, et ce qu'a très bien résumé Microsoft, aujourd'hui, le plus important, c'est pas qu'on utilise tes produits, c'est qu'on t'aide tous les jours, qu'on t'utilise tous les jours. Et Microsoft, ils en ont plus rien à foutre que tu utilises leurs produits sur des PC ou des Windows Phone ou quoi que ce soit. Ce qui est important pour eux, c'est que tu utilises leurs produits. D'où on voit chez Microsoft, ils font des apps photos pour iPhone. Ils font parce que le plus important, c'est que la marque soit sur les iPhones. Et d'ailleurs, l'app photo qu'ils ont sorti, on n'en parle pas dans ce rendez-vous tech, mais elle est hyper intéressante. L'app photo qui a sorti Microsoft. Eh bien, là, Salesforce, c'est la même chose. Pour être présent dans le monde de l'entreprise tous les jours, bah, ils achètent une suite bureautique pour être présent finalement dans la vie quotidienne des gens qui travaillent. Et c'est un peu ce que Microsoft a fait en rachetant LinkedIn, en fait.
Bien sûr. Puis pour être bon, pour sans être trop péjoratif, Salesforce, pour avoir vu un peu la bête, il faut imaginer que c'est une énorme usine à gaz, comme toutes ces solutions d'entreprise, ces grosses solutions B2B. Et le rachat de Quip, c'était une façon, au final, à moindre coût, si on peut le dire, d'intégrer la couche collaborative et la couche sociale dans Salesforce, sans devoir passer par des développements internes, sachant que Quip est plutôt abouti sur ce.
Ouais. Voilà. C'est un peu, on peut faire aussi le parallèle, parce que ça a été annoncé, je crois, la semaine dernière, Dropbox, qui sort aussi une petite suite bureautique simplifiée, qui va s'appeler Paper, et centrée aussi sur le travail collaboratif, quoi. C'est un peu la même stratégie. On sait que l'utilisation au bureau, c'est le collaboratif que tout le monde veut. Donc, toutes ces sociétés, achètent des outils collaboratifs. Pokémon Go, la petite nouvelle Pokémon Go, celle qui fait fuir les gens qui en ont marre qu'on parle de Pokémon Go. Mais on l'a fait quand même, la petite news, on va essayer qu'elle soit rapide et indolore. Juste pour dire que Pokémon Go bat tous les records. Hein. C'était prévisible, mais les chiffres sont là. En 30 jours depuis leur lancement, 200 millions de dollars. Donc 200 millions de dollars de revenus en un mois. C'est deux fois plus que Clash Royale, quatre fois plus que la dernière mouture de Candy Crush, qui étaient quand même deux produits qui avaient des licences fortes déjà avant de se lancer. Clash Royale, il y avait quand même Clash of Clans, et je sais plus comment il s'appelle le dernier Candy Crush, c'était...
C'est Soda, non ?
Ouais, Soda, voilà.
Une bêtise comme ça.
T'as tout Candy Crush derrière. Et ben, Pokémon...
Ouais,
bon, okay, alors la licence est connue aussi, mais le jeu en lui-même n'était pas connu, Pokémon Go, là, 200 millions de dollars en un mois.
C'est hallucinant. Il faut se rendre compte qu'en plus, alors, Pokémon Go, c'est quand même, c'est pas from scratch non plus. Niantic avait déjà développé un premier jeu qui s'appelait Ingress, qui était quand même réservé à la communauté un peu geek. Et Pokémon Go, c'est une surcouche avec une licence sur le jeu Ingress au départ. Et c'est dingue à quel point on peut avoir un levier comme ça avec une bonne licence comme celle de Pokémon. C'est assez surprenant. Je pense qu'en plus, on est dans un moment parfait, c'est-à-dire que les jeux Pokémon ont eu leur... quand les jeux Pokémon sont sortis, c'était il y a 10 voire 15 ans, et qu'en fait toute cette communauté qu'il y avait à l'époque, en fait aujourd'hui elle a entre 25 et 35 ans, et c'est le cœur de cible de l'application Pokémon Go. Donc, c'est une réussite totale, quoi.
Toi, Jean-Baptiste, je crois savoir que tu enfant, tu aimais beaucoup les Pokémon. Ça t'énerve pas un peu que les gens s'emparent
enfant.
Des Pokémon?
Alors, non, mais alors moi, j'ai un passif extrêmement compliqué avec Pokémon. Hein. C'est une licence que je chéris depuis maintenant 18 ans, jour pour jour et de jour en jour. Non, c'est vraiment une, quand c'est arrivé en France, en fait, c'est arrivé en 98 de mémoire. Non, c'est vraiment une licence que j'apprécie particulièrement, pas que pour ces jeux, mais même pour l'univers étendu, on va dire ça comme ça. Moi, il y a deux choses qui me fait peur avec Pokémon Go en tant que puriste de Pokémon. C'est d'une part, on sait que la licence est en voie de potentiellement être rebootée. C'est les 20 ans de la licence. Il y a moyen que les mécaniques de jeu soient remises en question dans les prochains opus. J'ai peur que ça parte là-dessus, parce que sincèrement, Pokémon Go, moi ça m'énerve de voir tout ce succès pour un jeu qui, au final, méprise complètement le gameplay d'origine.
Travestit l'esprit.
Ah mais complètement, enfin, genre à quel moment tu cumules plein de Pokémon, parce que ça n'a aucun, enfin bref.
C'est juste un sticker Pokémon Go sur un autre jeu en fait. Hein.
Bah oui, clairement. À la limite,
ça a du succès, c'est pas grave, là je m'en fous, mais tant que ça n'a pas de conséquences avec les futurs jeux. Le deuxième point, qui est peut-être légèrement plus, le problème. Ouais, non, c'est compliqué, mais en gros, j'ai vraiment l'impression de vivre ce qu'ont vécu les gens qui aimaient Star Wars au moment où la culture geek est devenue Tu vois, au moment où le fait d'avoir un iPhone, c'était être geek et que tout le monde s'est mis à aimer Star Wars.
Ce que tu es en train de vivre, c'est quand tu connais un petit groupe de rock de quartier et qui se mettent à avoir du succès, c'est toujours un peu chiant parce que tu te dis c'était à moi et là tout le monde vient poser ses sales pattes dessus et ils y comprennent rien, ils les aimaient pas avant.
C'est même pire que ça, c'est qu'il y a deux mois j'étais un nerd absolu, un espèce de teubé qui jouait à Pokémon Saphir Alpha et ce genre de choses. Et en l'espace de deux mois, t'as ma mère qui se met à capturer des Pokémon. Il y a un espace-temps qui s'est ouvert.
Le grand public s'est approprié la licence et la communauté originelle se sent dépossédée de son Pokémon. Voilà.
Mais après, ça l'a fait vivre.
Ce que tu dis, Jean-Baptiste, est pas faux. Quelque part, moi qui ai vécu, on va dire, les heures noires du geek en France, où on était relégué au fin fond des salles d'études avec nos donjons et dragons, et qui vit, on va dire, l'avènement du geek comme une belle revanche. En même temps, c'est sûr que tu perds le côté happy few quand personne ne savait ce que c'était que ces trucs. J'ai envie de dire, c'est toujours le phénomène difficile quand t'as quelque chose qui était à nous et qui devient mainstream. Ouais. C'est toujours un moment difficile à passer. Après, il faut toujours être content. Écoute, c'est bien pour les Pokémon dans l'absolu. Oui, T'inquiète pas, ils retomberont dans l'oubli et tu pourras redevenir un spécialiste Pokémon.
Mais de toute façon, c'est une licence qui allait pas mal, mais t'avais vraiment des concurrents au Japon qui sortaient et qui étaient devenus très très massifs dans la population japonaise. Je pense à Yo-Kai Watch, ça allait devenir un incontournable. Et à la limite, heureusement que Pokémon Go est sorti pour redonner un petit coup de fouet à la licence qui aujourd'hui va avoir des films à Hollywood, ce genre de choses. Parce que sans ça, je sais pas ce qu'elle serait devenue. Je pense qu'on aurait retenu que Pikachu et les licences Pokémon auraient sombré. Je pense.
Pourquoi il y a d'autres Pokémon que Pikachu? Moi, j'attrape que des Pikachu. Et là, il y a tout le monde qui dit quoi? T'habites où?
Quoi? Mais il y en a 780 d'autres.
Ben, je sais pas, moi, il y a que ça dans le parc en face de chez moi. Il y a que des Pikachu. Je vous donnerai pas l'adresse. Allez, on arrête sur Pokémon Go. Là, on a tué quelques personnes qui détestent Pokémon Go et qui en ont marre qu'on en parle. On va parler de l'Apple Watch. Là aussi, il y a des gens qui en ont marre qu'on parle de l'Apple Watch. Mais on va parler de l'Apple Watch 2. A priori, les rumeurs nous disent que l'Apple Watch 2 serait mieux que l'Apple Watch 1. Faut-il y croire ?
Quoi ?
Elle serait mieux ? Non. Non, alors, c'est des rumeurs, hein. supputons. Elle serait aussi épaisse. Mais pourquoi serait-il aussi épaisse ? Parce qu'elle va avoir un nouveau processeur qui va avoir besoin de plus de batterie. Donc, la taille va pas trop changer, en fait. Le design, a priori, non plus. Mais un processeur plus puissant et surtout du GPS. Elle va être plus autonome, mais ça va peut-être plus venir de WatchOS 3 qui promet effectivement une montre plus autonome. Toi, Alexandre, t'en as une Apple Watch ou...
Non, absolument pas. Et je suis pas réfractaire. C'est juste qu'en fait, je n'en aurais pas l'usage. Et en fait, je ne situe pas encore l'usage des montres connectées.
Toi, Jean-Baptiste, je sais que t'en as une.
Oui, j'en ai une. Écoute, j'en suis content. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai acheté aux États-Unis parce qu'elle était moins chère et je comptais la revendre en France. Et puis au final, je suis resté avec. Et non, j'apprécie vraiment ça parce que ça remplace mon téléphone en fait. J'en avais vraiment ras le cul d'avoir mon téléphone tout dans ma poche tous les jours et voilà.
Mais attends, du coup, tu pars sans ton téléphone de chez toi ou...
Ah non, bah non, je suis obligé. Voilà,
c'est
pour ça qu'en fait,
quand
on fait tout le petit listing des technos qu'on rajoute dans l'Apple Watch 2, moi, il reste la SIM, en fait. Il y a que ça dont j'ai besoin aujourd'hui.
Ah ouais, toi, tu voudrais vraiment que ta montre se
carrément
dans mon téléphone.
Ah ouais,
tu pourrais lâcher ton téléphone si on te passait la SIM dans l'Apple Watch.
Et t'assumes de parler comme inspecteur gadget à ta montre dans la rue.
Non, je pense qu'en fait, je limiterais mes envois, mes communications, en fait. Tout bêtement, mon téléphone resterait chez moi, j'en aurais toujours un. Mais je pense que je limiterais, bizarrement, de manière étrange, ce serait moins intrusif. En fait, je limiterais ma conso. Enfin, c'est
marrant parce
rapport...
que moi, je suis content de mon Apple Watch, mais pas pour les mêmes raisons du tout. En fait, j'ai l'impression. Moi, en fait, c'est ça, je pense, l'avenir des smartwatches. Là où on s'est gouré, mais bon, il y a l'air d'avoir des consommateurs qui veulent ça. Je pense que là où on s'est gouré, c'est qu'ils ont voulu, et même Apple a voulu sortir des montres qui, finalement, avaient des fonctionnalités presque trop pas puissantes, mais qui n'avaient aucun intérêt sur une montre. Et on s'aperçoit, moi, ça fait un an que j'ai l'Apple Watch. Finalement, tout usage qui me prend plus de 2 secondes n'a aucun intérêt sur une watch.
Clairement.
En gros, tout ce qui est glance, c'est-à-dire lire un message rapidement, mais un petit message, avoir une info, ton prochain rendez-vous est à telle heure, oui, ça, c'est super utile sur une smartwatch. Après, avoir les articles du Monde sur ma smartwatch ou de pouvoir jouer à des jeux vidéo, ça n'a aucun intérêt. La position, en plus, de devoir retourner le poignet vers soi et de toucher la montre est fatigant, intrusif, pour le coup, et pas du tout ergonomique. Donc, finalement, les smartwatches doivent revenir ce qu'elles sont dans leur nom, des montres intelligentes. Elles doivent faire plus qu'une montre, mais rester en gros, pour moi, dans les périmètres de ce que fait une montre. C'est te donner des alertes, t'aider à gérer ton temps, et à la limite, quelques alertes de mail, quelques petites lectures, mais c'est tout. On va absolument pas aller lire des articles entiers sur une smartwatch, quoi. Ça, c'est, ça ne marchera pas. Ou prendre des photos avec sa smartwatch, quoi. C'est à moins de vouloir être l'inspecteur gadget. Je pense. Et c'est ce que Apple a l'air d'avoir compris, pas tellement avec la Watch 2, mais plutôt, à mon avis, avec ce qu'ils font sur l'interface de la Watch.
Sur WatchOS 3, ouais, clairement.
Ouais, ouais, clairement. On verra, on verra. News quand même super importante, et je ne sais pas si vous le saviez, messieurs, l'Australie va changer de longitude et de latitude et va bouger d'1,6 mètre. Est-ce que vous savez pourquoi ? En fait, oui, parce que je vous l'ai dit avant l'émission.
Oui,
c'est un peu ça, oui.
On aurait pu faire paraître plus intelligent, en fait, Simon.
En fait, depuis 1994, l'Australie n'a pas mis à jour sa position. Et comme vous le savez, si vous avez gardé vos années lycée, il y a des mouvements, la tectonique des plaques, les mouvements des différents continents les uns par rapport aux autres, les grandes plaques terrestres, eh bien l'Australie bouge comme tout le monde, enfin comme tous les autres continents, et donc elle a bougé d'1,6 mètre, et en fait ça pose un gros problème. Ça cause un gros problème pour les voitures autonomes et surtout pour les tracteurs autonomes. Les voitures autonomes, c'est pour entre guillemets l'Australie de demain, mais il y a déjà beaucoup de tracteurs autonomes en Australie, et avec ce décalage d'1,6 mètre, bah, et les tracteurs se perdaient et rentrent dans les fermes, font peur aux poules et se trompent de chemin.
Et labourent les routes aussi.
Moi, j'ai trouvé que c'était une nouvelle fantastique, quoi. De se dire, tiens, il y a un pays qui doit remettre à jour, en fait, sa position sur la Terre, quoi. Ça relativise pas mal de choses. Ça m'a beaucoup
Clairement,
fait sourire.
C'est poétique.
C'est poétique. La France, elle a pas bougé, hein. Ça bouge pas, hein. J'ai pas l'impression. Après, je sais pas, peut-être que nous, on remet à jour plus régulièrement, mais je crois pas que la plaque continentale où il y a la France bouge autant que ça. Mais
non, la plaque qui se déplace, l'écart le plus rapide qu'on a près de chez nous, c'est le détroit de Gibraltar, et le détroit de Gibraltar se referme petit à petit, il me semble, mais c'est
Ouais. Et ça doit pas dépasser quelques centimètres.
Je crois qu'on est on doit être au centimètre par an ou quelque chose comme ça.
Ouais. Ouais, bah, au bout d'un bon moment, il faudra remettre à jour, hein, parce que pour une voiture autonome, 10 centimètres, ça peut être la différence entre le trottoir et le piéton, hein.
C'est ça.
Clairement, donc, ouais. Ça peut être dangereux. Voilà pour l'Australie qui se déplace. Une nouvelle, on va y aller rapidement dessus, mais c'est Google et Dashlane qui annoncent OpenYOLO. Ce n'est pas un chanteur russe. OpenYOLO, ça va être en fait un système open source, une API qui va gérer. En fait, c'est un système de passe. Comment on appelle ça?
Un OnePass.
C'est comme OnePass. Mmh. C'est comme LastPass. C'est oui, mais ça annonce ces applications.
C'est du single authentification. Oui, je perds du coup, je retrouve pas le nom.
Ouais, on retrouve pas le nom. En gros, c'est des trousseaux de clés, on va dire, des trousseaux de clés virtuels qui retiennent tous vos codes et qui vous permettent de gérer tous vos codes avec un système d'identifiant unique et un code unique. C'est comme OnePass, c'est comme LastPass. Il y a Dashlane, effectivement. Il y en a d'autres. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que je sais que ces applications, il faut vraiment qu'elles se démocratisent. Elles sont hyper importantes. Vous utilisez tous les deux un gestionnaire de mots de passe. C'est ça le mot, gestionnaire de mots de passe.
Moi, j'utilise LastPass actuellement.
Moi, j'en utilise pas. J'ai toujours peur, je sais pas ce qui se passe, j'ai un frein psychologique à...
Mais c'est le vrai, c'est justement, c'est la vraie question, ce qu'on se disait avant l'émission, c'est que le fait que ce soit open source, ça va justement rassurer beaucoup de personnes, peut-être comme toi, pour pouvoir passer sur ce type de gestionnaire en se disant, tiens, bon, c'est cool, j'ai mis tous mes œufs chez quelqu'un, mais je sais ce qui se passe aussi, quoi.
Ouais.
En quelque sorte, est-ce qu'on pourrait considérer que le Touch ID dans l'iOS, la manière dont il est intégré dans les apps, etc., ça peut être aussi une sorte de mode passe unique ou c'est différent dans
Alors,
l'état de fonctionnement?
Oui et non, c'est-à-dire que OnePass, par exemple, te permet d'utiliser Touch ID comme identifiant, comme clé de l'ensemble de tes clés. Mais l'OS d'Apple en lui-même, alors s'il y a le trousseau de clés, mais je fais pas tellement confiance au trousseau de clés d'Apple, moi. Mais je dis toujours non quand il me dit « Est-ce que tu veux retenir un truc ?» Moi, je dis toujours non. Et alors, ceux de Google, je dis deux fois non. Mais bon, je sais pas, c'est peut-être pas la bonne méthode. Moi, je suis content de mon trousseau OnePass. Mais c'est vrai que l'open source, une API open source, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça peut favoriser l'innovation dans le domaine des trousseaux de clés. Et je pense qu'on en a bien besoin. Ça devient tellement vital, nos identifiants et les mots de passe qu'on utilise. Et on commet encore tellement d'erreurs là-dessus que pour l'avenir, c'est quand même vachement important comme développement.
Bon, après, il s'appelle YOLO hein, quand même. Faut relativiser.
Open YOLO.
Open YOLO. Et c'est pour You Only Login One, c'est ça?
Oui, c'est ça. Online. You Only online, Logging Online, c'est ça, ou One, je sais plus. Attends, je vais te dire ça. Tu m'as posé une colle.
Et tu vois, j'arrive en...
Ah, tu m'as collé, là. Tu m'as collé. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est You Only Logging Once.
Ah, Once. D'accord.
Once, oh. Eh oui.
Tout s'explique.
Tout s'explique.
Parce que c'est vrai... Parce que c'est vrai qu'un gestionnaire de mots de passe en mode YOLO,
ça s'appelle YOLO.
C'est pas génial au niveau marketing, effectivement. Et ton mot de passe, oh, c'est YOLO. Ah, d'accord. Allez, avant-dernière news, le Bitcoin qui dévisse, moins 36% le Bitcoin la semaine dernière. Pourquoi? Ben, un petit piratage de $65 millions. Alors, ça veut dire à la fois grand chose et pas grand chose. En gros, on va peut-être pas faire tout le détail de l'histoire parce que ça serait long. C'est pas la première fois que ça arrive à Bitcoin. Il y a des problèmes aujourd'hui de sécurité, pas tant au niveau du Bitcoin lui-même, mais la manière dont sont gérés les marchés Bitcoin. L'année dernière, il y avait déjà eu un premier scandale autour du Bitcoin qui avait d'ailleurs dévissé aussi. Là, on en est au deuxième. On en est où? Vous, votre vision du Bitcoin aujourd'hui, elle en est où, vous? Ah, d'accord.
J'essayais de savoir par quoi commencer. Les crypto-monnaies, de toute façon, c'est l'avenir. Maintenant, comme je pense que Bitcoin commence un peu à souffrir en termes de niveau de sécurité. Alors, certes, il reste complètement devant et je crois qu'ils sont à 3 ou 4 milliards de dollars en équivalent de masse monétaire. Mais je pense que petit à petit, on va voir arriver les autres derrière, comme Ethereum, qui est un peu plus sécurisé. Et puis un truc aussi tout bête, c'est que maintenant, on a tout ce qui nous est amené par la blockchain. Alors, je vous renvoie au rendez-vous tech de Patrick sur la blockchain. Je crois qu'il y en a un spécial,
excellent,
il me semble, sur le sujet. Voilà, un excellent rendez-vous tech où tout est bien expliqué. Mais très clairement, ce qu'on va voir arriver très vite, c'est la blockchain. Alors, je crois qu'on a aujourd'hui, on est à peine 30 millions de capitalisation sur la blockchain, mais bon, je pense que ça va monter très très vite avec les nombreux hacks qui vont arriver sur progressivement sur Bitcoin et sur tous les autres crypto-monnaies. Maintenant, à chaque fois que Bitcoin se fait hacker, généralement 6 mois plus tard, la capitalisation elle est remontée aussi haut, si ce n'est plus haut. Donc,
c'est une monnaie très volatile, donc elle est volatile dans les deux sens. Aujourd'hui, il y a un côté Far West quand même encore au Bitcoin.
Donc, clairement.
On peut se faire des fortunes rapidement et on peut tout perdre. Moi, c'est l'impression que ça me donne un petit peu quand même le Bitcoin. Faut avoir des burnes, je trouve, aujourd'hui, pour se mettre dans le Bitcoin. Il y a des voleurs de grand chemin. Enfin, je trouve que c'est passionnant de suivre. Moi, personnellement, je mettrais pas un copec dedans, hein, mais.
Clairement. On en parlait tout à l'heure, mais c'est la libéralisation totale de l'économie, hein, le Bitcoin. Et donc, ça, faut être prêt à assumer certaines.
Ah ouais, c'est l'attaque de la diligence.
C'est exactement ça. C'est
voilà,
exactement
le libéralisme ça. Sauvage dans tout ce qu'il peut avoir de passionnant, mais de complètement fou, quoi. C'est la ruée vers l'Oklahoma, quoi. C'est un petit peu ça. Oui, non, l'attaque de la diligence, ça le fait bien, je trouve.
Oui, c'est pas mal.
Il y a ce côté-là. On termine quand même par ce qui aurait pu être drôle, mais qui est peut-être pas si drôle que ça, une news. Vous savez tous ce qui s'est passé et ce qui se passe en Turquie actuellement. Une tentative de putsch, de coup d'État avorté. Et on peut le dire aujourd'hui, on est un peu dans la purge, quoi. C'est on cherche un peu tous les responsables et Erdogan en profite un petit peu pour faire le grand ménage de tous ceux qui l'emmerdent un peu. Et c'est dans ce contexte-là qu'une journaliste pensant avoir un scoop déclare à la télé à avoir trouvé des codes confidentiels que les méchants s'échangent. Jusqu'à ce que les gens regardent d'un petit peu plus près le carnet qu'elle avait en main et s'aperçoivent que c'était des codes de triche pour jouer à GTA 4. Donc, ça aurait pu faire rire, mais...
Tu veux dire. C'est surtout que c'est, oui, les sujets, comme on se le disait tout à l'heure, c'est des sujets graves en ce moment, ce qui se passe en Turquie. Et c'est les chaînes d'infos continuent là-bas aussi, hein, comme chez nous, avec une info qui est produite rapidement, peu de vérifications, des journalistes qui, malheureusement, ont tendance à sourcer de moins en moins. Puis là, en plus, c'est à la télévision, en fait. Hein, on n'est pas... J'ai regardé, du coup, la vidéo. C'est assez hallucinant.
Puis surtout, on se dit, dans ce contexte-là, imagine que l'erreur soit passée à l'as. Le pauvre mec qui avait noté des codes de triche de GTA 4 qui se retrouve au milieu des purges, franchement, c'est les boules, quoi. Enfin, là c'est l'erreur judiciaire absolue. Bref, protégez bien vos codes de jeux vidéo, on sait jamais.
Ouais, ne trichez pas journaliste. Vivement qu'un journaliste arrive en mode il y a un regroupement de rebelles à tel endroit et en fait c'est des arènes Pokémon Go, tu vois.
Ça va arriver, hein.
Ça va arriver.
Moi, il y a une news que Corben avait fait passer, et on terminera là-dessus, qui m'a fait beaucoup rire. C'est dans un village en France qu'on ne citera pas, où il ne doit pas y avoir beaucoup de passages. Il y avait manifestement soit un portail Pokémon, soit un Pokégym, et la feuille de chou du coin faisait des articles. Des individus suspects s'arrêtent à longueur de journée sur le chemin de la croix machin, etc. Ils s'arrêtent et prennent des photos. C'est extrêmement bizarre. Nous avons averti la police. Voilà, c'est le choc des cultures entre les chasseurs de Pokémon Go et on va dire un certain espace rural, quoi. Où le Pokémon est rare, d'ailleurs. Dans l'espace rural. Voilà. C'était une émission. Je pense que Patrick va nous engueuler, quoi. On a fait peut-être une émission un petit peu trop longue. Je n'en sais rien.
Écoutez, en tout cas, ça a eu le mérite d'être pédagogue sur la première partie aussi de toutes ces problématiques financières. En tout cas, c'était clairement. J'espère que les auditeurs auront compris ce qui est.
Ouais. Après, bon, ça n'aura peut-être pas intéressé certains, mais moi, je trouve ça intéressant, justement, bien comprendre les dangers et les enjeux de tout ce monde des finances et les rapports qu'il a avec la tech. Parce que on aimerait bien peut-être que ça soit différent, hein, que Twitter survivre parce qu'on l'aime, mais là c'est encore l'argent le nerf de la guerre aujourd'hui, ouais. Donc c'est important d'être au courant de ces news. Ou alors faut faire une révolution, hein, ça je m'en lave les mains. Messieurs, en tout cas. Merci de m'avoir accompagné. Je dois avouer que je tire mon chapeau à Patrick parce que tenir un Techscope, c'est pas si facile.
J'espère. Un Techscope.
Mince, tu vois, la bourde de fin d'émission. Un rendez-vous tech. Ouais. Un rendez-vous tech, ce n'est pas chose facile. Et je tire mon chapeau à Patrick. J'espère pour les fans de Patrick que vous n'avez pas passé un trop mauvais moment. Si c'est le cas, rassurez-vous, Patrick revient dans 15 jours, donc ça n'aura été qu'un mauvais moment à passer. Mais pour les autres, je serais ravi que Patrick parte en vacances plus souvent pour continuer l'aventure. En tout cas, messieurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné, de m'avoir soutenu. Traditionnellement, je vais vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver sur la toile internet mondiale. À commencer, comme on avait commencé par Alexandre, je vais commencer par Jean-Baptiste.
Et ben moi, on peut me retrouver en général sur plein de petits projets ou alors sur des vidéos YouTube d'un certain Jérôme Kengborg en apparition sauvage. Mais aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle UVYO, UVYO. Elle va rebooter en décembre. On fait des petites vidéos qui ont valeur. On fait de l'éducation populaire et on va en faire de plus en plus. Donc la relation à la tech et la politique, ce genre de problématiques, ou alors la médecine et les conséquences que ça a. Donc voilà, on touche de plein de sujets, on fait pas mal d'éducation populaire et ça nous amuse. À côté de ça, moi je donne des cours d'HTML et de CSS aux enfants d'âgés de 8 à 12 ans. Et donc je vais faire des petits projets qui vont sortir prochainement. Donc sur Twitter, vous pouvez me suivre sur jb.daquet, D-A-C-Q-U-E-T.
Très bien. Et toi, Alexandre ?
Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver sur Polygeek, comme on le disait en début d'émission, podcast qui parle d'Internet, de politique et de high-tech. On a un dernier épisode là qui est sorti récemment et qui est consacré à la surveillance numérique, avec notamment une interview d'Adrienne Charmé, la porte-parole de la Quadrature du Net. Et puis, un projet futur, enfin à venir en tout cas très bientôt, avec Xildrian et Piouf, pour ceux qui connaissent un peu la podcastosphère, et qui va suivre la campagne présidentielle de 2017. Et je pense que le podcast va démarrer à partir de septembre-octobre. On va s'attacher à décortiquer un petit peu les différents programmes. Voilà,
ça
voilà.
Ça risque d'être passionnant. En tout cas, merci messieurs. Moi, vous pouvez me retrouver sur Nowtech TV, puisque c'est effectivement la chaîne YouTube dont j'ai le plaisir de m'occuper. Vous pouvez me retrouver aussi tous les matins dans l'émission Techscope, pour l'instant qui se déroule sur Periscope, mais on risque de changer au bout d'un moment, mais on n'ira pas sur Facebook Live. Mais bon, voilà. Non, si YouTube sort un truc live un peu comme Periscope, naturellement, on retournera sur YouTube, puisqu'on est avant tout une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez me retrouver tous les matins, ou alors Marion, puisque nous présentons à tour de rôle l'émission Techscope de 8 à 9 heures, et qui est une revue de presse de la technologie que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom. Donc voilà, Nowtech TV à suivre si vous ne connaissez pas encore. Je voulais donner un dernier message, parce que je n'ai pas fait de message Patreon, mais parce que je garde le meilleur pour la fin, et Patrick n'est pas là, donc il n'a pas le contrôle de ce que je veux dire. Eh bien, j'en profite pour dire ce que j'ai au fond du cœur. Je voulais remercier tous les patriotes du Rendez-vous Tech, parce que au-delà de nous permettre d'avoir un Patrick à 100% dispo pour nous faire nos merveilleuses émissions, je pense que certains, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes important et pionnier dans votre démarche, et que l'ensemble des indépendants qui essayent de vivre avec des mix, on va dire, pub, crowdfunding, etc. Patrick, quelque part, est un des premiers indépendants, même voire le premier indépendant à s'être jeté à l'eau. Le fait qu'il y arrive aujourd'hui, c'est un modèle à suivre, et que vous avez ouvert la voie et que vous avez une réelle importance pour l'ensemble de la production de contenu indépendante. J'utilise un mot un peu pompeux, mais l'indépendance, ça se paye, et c'est grâce à vous qu'on l'aura, et que c'est très important aujourd'hui, dans un monde où le contenu a tendance à s'appauvrir à cause, je dirais, de sources de financement qui ne sont pas innombrables, et que vous êtes une vraie bouffée d'air pur, et grâce à vous, le contenu indépendant peut éventuellement envisager de survivre. Voilà, j'espère.
Et qu'il n'y a pas de petite donation.
Et il n'y a pas de petite donation. Quand on n'a pas de quoi donner, le fait de soutenir, c'est déjà important. Et de comprendre la démarche et de pas la critiquer bêtement, ce genre de choses comme on peut le voir parfois. Donc voilà, vous avez une réelle importance, les patriotes du Rendez-vous Tech. Donc merci à vous de la part de Patrick, mais aussi de tous les autres producteurs de contenu indépendant que nous sommes. Voilà, un petit mot messieurs pour la fin, au revoir, des vacances bientôt, ce genre
pas
de choses.
Pas de vacances. Pas de vacances du tout, non. Mais en tout cas, merci beaucoup Jérôme de nous avoir invités, c'était un vrai plaisir d'être avec vous, et j'espère que les auditeurs ont apprécié cet épisode.
Oui. Écoute, on verra dans les commentaires.
Je me joins en remerciement également.
Et surtout, on peut te suivre Jérôme sur, tu l'as oublié, mais sur Instagram du coup.
Ah oui, on peut me suivre, et mais vous aussi d'ailleurs. Ouais. Mais toi, t'es pas très actif, mais moi,
ah, pas
c'est,
du tout, non.
C'est Jérôme Kenborg pour le coup, c'est mon nom. Donc K-E-I-N-B-O-R-G pour le nom et Jérôme pour le prénom, Jérôme Kenborg, tout attaché. Toi, Alex, Alexandre, t'es un peu sur Instagram.
Moi, non, je suis pas sur Instagram, seulement sur Twitter. D'ailleurs, je l'ai pas donné. @OOAlex.
OOAlex. Eh ben, écoute, suivez-nous là où nous sommes, et sinon, suivez vos Pokémon. Ça sera le mot de la fin.
C'est parfait.
La devise de la fin. On vous remercie tous. Si vous êtes en vacances, qu'elles soient excellentes. Si vous êtes rentrés, ben j'espère que c'est pas trop dur. Et si vous allez bientôt partir, que l'attente ne soit pas trop longue. On vous embrasse tous. Et c'est Patrick qui vous retrouve dans 15 jours. Allez, ciao, ciao tout le monde.
Ciao.
Ciao.
Attends, je suis pas sûr qu'il faut que je mette ça. Il donne le numéro du rendez-vous tech ou pas, Patrick, dans l'émission?
De mémoire, oui.
Donc, Patrick, je reprends. Tu fais une petite coupe à ce moment-là. Donc, bienvenue à vous, messieurs, hein, dans ce TechScope numéro... dans ce TechScope, putain.
C'est parfait.
Ah, le lapsus.
On la garde. C'est
on la garde, parfait.
Non, je la refais.
Patrick, ne coupe pas.